Donc voilà, Franck, à toi.
Merci, merci beaucoup. Ça va le son ?
À toi.
Ça va être très, très difficile de reprendre après toute cette poésie, musique. Et c'était très intéressant de voir justement. Je vais essayer de trouver un petit peu un lien là, parce que c'est quand même c'est important de voir que le voyage c'est d'abord de la poésie. Hein. Et je crois que j'ai bien retenu l'avant-dernière intervention quand il disait sur la grande route. Hein, vous vous rappelez là, sur la grande route. Donc je crois que là déjà c'est une comme le thème de ce soir c'est voyager autrement. Bah je crois que sur la grande route c'est là que ça commence quoi en général. Hein. Donc je crois déjà que c'est une certaine manière, parce que moi je suis très attaché à l'éloge du voyage désorganisé. C'est-à-dire, d'une certaine manière, c'est essayer de travailler ensemble, donc individuellement et avec ses amis, avec sa famille, etc., avant de voyager, pour arriver à tout simplement se débarrasser de tout ce qui est de l'organisation et de la surorganisation touristique. Donc, ça va dans tous les sens. Hein. C'est pas seulement les voyagistes, c'est pas seulement les transports aériens, mais c'est aussi tout ce qui est dans nos têtes, quoi. Hein, c'est-à-dire les médias, les documentaires qu'on a vus, les articles qu'on a lus dans Géo, et aussi, enfin, tout le reste, quoi. Donc, c'est intéressant de voir comment se faire d'une certaine manière un peu violence pour arriver à gagner du bonheur. C'est d'abord une vraie. C'est pour ça que parfois on dit que le voyage, ça se mérite, hein, parce que tout simplement, c'est pas facile d'arriver à se débarrasser de toutes ces pressions hein, qu'on peut avoir. Et je crois que quand on a entendu sur la grande route là, du poète de fin du 19e, début 20e, bah, il suffit de voir un peu les ancêtres de la même époque. Hein. Par exemple, Henri Thoreau, hein, qui avait écrit un super bouquin qui s'appelle, enfin en français, qui s'appelle Désobéir. Donc déjà, on voit un peu vers quoi on va, quoi. D'une certaine manière, Henri Thoreau, je pense certains le connaissent un peu ce qu'il a pu faire. Et il a écrit aussi un bouquin qui s'appelle Walden, qui est un livre qui est assez intéressant parce qu'il s'est retiré dans la forêt en Amérique du Nord à un moment donné pour vivre en autarcie, hein, pour chercher d'une certaine manière une certaine liberté perdue. Et aussi, tout simplement, pour essayer de se retrouver, donner un sens hein, à sa quête personnelle et à sa quête aussi politique. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir, là, on parlait d'Henri Thoreau, mais c'est pareil pour Jack London à la même époque, et aussi aux ceux qui vont venir par la suite, hein, je pense. Notamment à Nicolas Bouvier, qui va venir après, hein, par exemple, que d'autres connaissent peut-être mieux. Et puis, à plein d'autres gens comme ça qui vont aller prendre la route jusqu'à nos jours, quoi. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu quelque chose qui est très important. C'est un peu ce qui s'est passé depuis les 30 Glorieuses, si on veut, hein, depuis les débuts du Club Med pour d'autres. Donc, on va dire tout ce qui est un petit peu cette organisation touristique et aussi le fait que ça devient de plus en plus difficile de voyager autrement. Et c'est de plus en plus difficile aussi d'avoir un esprit, je dirais, libre. Hein, parce que voyager, c'est d'abord, d'une certaine manière, réapprendre à douter. Hein, réapprendre tout simplement aussi peut-être plus à apprendre plutôt qu'à apprendre. Hein, d'accord ? Donc c'est tout un travail sur soi par le biais des autres. Hein, donc quelque chose qui est... C'est un apprentissage de la liberté aussi, hein, je crois, qui est important. Pour reprendre un peu ce que disait Thoreau à l'époque, par exemple, dans le livre Désobéir, c'est aussi toute la réflexion sur comment le voyage est un apprentissage pour aller trouver un sens à sa vie et aussi une existence simplement plus saine. Hein, et c'est là où, peut-être après, je vous donnerai quelques anecdotes pour essayer de mieux comprendre ce qu'on peut voir quand on est dans des endroits un peu perdus, dans la forêt, je sais pas moi, amazonienne, ou chez les papous, ou je sais pas, chez les chamans, dans différents endroits, on voit qu'il se passe quelque chose d'un seul coup. Hein. Il y a des déclics qui se mettent en place. Ça peut être un choc traumatique, ça peut être un choc thérapeutique, ça peut être différentes choses comme ça qui se mettent en place, qui sont un peu de l'ordre de cette quête de sens très importante en fait en Occident. En France, notamment aujourd'hui, où on est en panne, je dirais, en panne d'utopie. Hein. On est complètement privé d'utopie, dans notre univers quotidien parce que simplement on ne sait plus trop où on va et on va chercher ailleurs des réponses, des solutions peut-être à nos maux sociaux hein, ou réels, avec parfois de mauvaises réponses. Hein. Je prends l'exemple tout bête, c'est par exemple des gens qui vont par exemple aller dans un pays comme le Laos ou comme au Cambodge parce qu'ils sont très attirés par le bouddhisme. Et puis, par exemple, ça m'est arrivé d'accompagner des gens comme ça. Et c'est surtout des femmes françaises qui se convertissent, par exemple, au bouddhisme et qui vont après aller chercher des réponses parce qu'elles ont été très déçues par le christianisme. Donc, elles vont chercher des réponses, mais tout en gardant le formatage judo-chrétien. D'accord ? Si vous voulez. Et donc, quelque part, on va juste transposer les problèmes qu'on a ici dans un territoire exotique. Donc ça ne change rien finalement. Hein. D'une certaine manière, je me suis retrouvé dans une pagode à Phnom Penh par exemple au Cambodge avec des gens qui commencent d'un seul coup à s'énerver. Pourtant on était soi-disant zen quoi. Qui commencent à s'énerver en disant aux moines comment il fallait faire quoi. Donc c'est là où on voit de nouveau une fois plus ce regard dominateur et tout simplement d'un rapport nord-sud qui s'exporte en fait en permanence. Donc on voit qu'il y a un réel problème dans notre manière de nous remettre, notre capacité de nous remettre en cause dans nos actions et notre manière de penser. Pour ça, je pensais à Taureau, là, sur la grande route, prenons un autre exemple, qui est un récit de voyage qui est très intéressant, qui a été écrit en 1924, qui est un bouquin qui a été réédité récemment de Léon Werth. Peut-être c'est un qui connaissent un peu ce qu'il a écrit. Des petites choses un peu connues. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Cochinchine, donc sur le sud de la péninsule, donc indochinoise à l'époque de la colonisation. Et c'est un des premiers bouquins qui est non seulement un réquisitoire, enfin contre la colonisation française dans le coin là-bas, mais c'est aussi surtout un récit de voyage assez pimenté qui montre vraiment la réalité du petit monde des blancs qui vivaient là-bas, des expatriés, si vous voulez, qui à l'époque étaient des colons qui vivaient là-bas. Et on voit qu'aujourd'hui, quand vous lisez ce bouquin, qui était un voyage de 1924, qui a été publié pour la première fois en 1926, donc vous le lisez, genre, je sais pas, presque 90 ans après, enfin, vous voyez quand même que c'est extrêmement d'actualité. Si vous faites une petite étude comme ça, où vous allez traîner dans les bistrots, par exemple, dans les bars, parce que de Saigon aujourd'hui, enfin, de Ho Chi Minh-ville, bah, vous retrouvez les mêmes petits blancs, hein. C'est la même chose. La société coloniale, finalement, maintenant, c'est la société d'expatriés, hein, par exemple de multinationales françaises ou autres, ou alors de touristes aisés qui parfois vont avoir des villas secondaires dans le coin. Donc on voit que d'une certaine manière on retrouve exactement cette société qu'il a déjà pu critiquer à cette époque-là aujourd'hui. Donc on voit qu'on n'a pas tellement avancé. Ça c'est pour montrer que voyager autrement c'est devenu une nécessité mais aussi quelque chose un peu un leurre, dans le sens où c'est très difficile d'arriver vraiment à voyager autrement, parce que notre regard n'est pas forcément autrement. Et donc je crois que là on est, je reprends un autre exemple, on parle beaucoup de tourisme comme panacée, comme truc super pour lutter contre la pauvreté, comme facteur de paix, enfin, bon, ce qui n'est pas complètement faux, parce qu'il y a des choses très positives qui existent aussi, heureusement. Mais on est quand même dans une opération un peu de marketing, hein. C'est pour ça qu'on parle toujours de tourisme durable, développement local, etc. Et je peux énormément se méfier de cela. Hein. Par exemple, prenez l'exemple du Népal. Hein. Certains ont fait des treks au Népal, peut-être, je sais pas. Bon, le Népal, c'est un des pays les plus pauvres de la planète aujourd'hui. Je veux dire, ça fait depuis... Alors, il y a eu certes des guérillas, il y a plein de problèmes, il y en a partout des problèmes. Donc ce qui est important, c'est qu'il y a eu toujours pas mal d'argent qui est rentré par le biais du tourisme, hein. Que ce soit en permis pour monter, pour faire de l'alpinisme, pour faire plein de choses. Hein. En fait, on voit que le Népal, ça fait 30 ans que, je sais pas, l'OMT ou des gens très sérieux, des experts en tourisme, vont nous dire qu'à un moment donné, le Népal va s'enrichir grâce au tourisme. Et on voit que ça n'a jamais été le cas. Et à mon avis, c'est pas dans 20 ans que ça va arriver. Ça va arriver. Parce que simplement, on est dans une usurpation, enfin, je dirais, dans quelque chose qui ne tient pas la route, quoi. Donc là, on est aussi, hein, faut jamais oublier que même dans le tourisme dit durable, souvent, malheureusement, l'argent qui est investi revient toujours dans les mêmes poches, hein, que ce soit les intermédiaires locaux, que ce soit les politiques, hein, ou les dirigeants économiques locaux, ou que ce soit les intermédiaires occidentaux ou autres. Donc c'est important de comprendre que toute cette dynamique aujourd'hui, c'est pas parce que c'est à la mode que c'est forcément meilleur, quoi. Bon, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Après, il y a tout le contexte géopolitique, hein, que vous connaissez. qui est aussi assez intéressant. Hein. Je, deux petits, bon, moi, j'explique juste, moi, je viens de Corse, là, donc, ok. Mais je veux dire, sinon, je suis, à la base, je suis alsacien, d'accord, donc j'habite à Strasbourg. Hein. Et j'habite 6 mois par an à Bali, d'accord, qui est une île en Indonésie, où, voilà, où je vis une peu part de l'année, quand même. Donc, c'est important, parce que, donc, du coup, je suis un peu, je voyage un peu. Et puis, je vois que, à Bali, c'est intéressant de voir aussi l'évolution, de comment ça se passe à ce niveau-là, au niveau de tourisme, et de l'évolution par exemple, il y a eu un attentat très important, vous avez entendu parler, puisque je parlais de géopolitique du tourisme, en 2002, hein, le 12 octobre 2002, il y a eu pas mal de morts. Donc, au-delà des clichés qu'on a ici à la télé, quand vous entendez les islamistes, ils ont mis les bombes, voilà, bon, le tourisme va baisser, ça va être très terrible, ça va être terrible pour les populations locales qui n'auront plus l'argent du tourisme. Ça, c'est un peu le discours ficelle, quoi, si vous voulez, qu'on entend un peu partout. La réalité, c'est que les intellectuels ou certaines personnes ou les paysans aussi balinés, ben, certains, ceux qui ne gagnent pas directement de l'argent avec le tourisme, d'accord, ben, certains se sont vraiment posé des questions suite à cet attentat, hein, qui était très problématique pour les balinés, qui sont hindous, par rapport aux musulmans voisins, enfin tout ça. Donc il y a eu une vraie réflexion, et en fait, beaucoup de gens, quand on voit sur le terrain ce qui se passe, ils n'ont pas dit merci aux terroristes, c'est pas du tout ça, mais ils ont simplement dit, bah, grâce à cet attentat, nous, on a réfléchi exactement qu'est-ce que c'est notre identité culturelle, notre identité locale, par rapport aux touristes, est-ce qu'on n'a pas fait des conneries par rapport à l'industrie touristique, est-ce qu'on n'a pas fait justement quelques bêtises là-dessus qu'il faudrait repenser. Par exemple, il y a des gens qui étaient, je sais pas moi, gigolos, par exemple, et puis qui sont retournés au village travailler dans les rizières, quoi. Ce qui était impensable autrement. C'est pas forcément bien, mais une fois plus, c'est une réflexion, hein, qui remonte quand même qu'il y a une réflexion qui s'est passée. Et puis, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, ben, c'est quand même terrible qu'on a eu besoin d'un attentat pour réfléchir sur le bien fondé ou non du développement touristique. Donc là, je crois qu'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est cette réflexion au niveau de penser un peu durable, hein, si on veut, c'est-à-dire de penser à long terme et non pas à l'argent facile, parce que le tourisme, malheureusement, dans beaucoup de têtes, hein, surtout dans les pays du Sud, mais aussi dans les pays du Nord, bah, c'est quand même, comment dire, on n'a pas besoin de beaucoup d'investissement, on n'a pas besoin de beaucoup réfléchir sur des projets à long terme, on a l'impression que le fric rentre très vite et que d'une certaine manière... c'est pas très compliqué à faire des affaires rapidement. Donc aujourd'hui, vous avez un énorme problème dans le foncier, hein, dans tout ce qui concerne voilà, les expatriés, hein, comme à Marrakech aussi, hein, enfin bon, partout. Hein, vous avez un énorme problème par rapport au voyager autrement. La thématique de ce soir, c'est que ben, les gens, au lieu d'aller, je sais pas moi, à Corbigny, par exemple, en week-end, ben, ils vont prendre l'avion low cost pour aller à Marrakech. Ce qui leur reviendra peut-être même moins cher. C'est là où l'aberration devient assez délirante, quoi. À l'heure où on n'arrête pas de vous parler du pétrole, du réchauffement climatique, enfin de tout ce que vous voulez, quoi. Donc on voit qu'on est quand même dans des aberrations, hein, de plus en plus fortes, où on est dans des contradictions, voilà, que beaucoup de gens n'arrivent pas à résoudre, hein. Parce que là aussi, les gens étant de plus en plus contraints, je dirais, à une certaine précarité économique, ben, en même temps, ils vont se dire, ah ben, pour une fois, je peux aller à Marrakech, donc je vais y aller, hein, par exemple. Donc qu'est-ce qui se passe, ben, d'une certaine manière, c'est une fois plus l'économique qui va l'emporter sur la raison, hein, on va dire. Et donc aujourd'hui, par exemple, pour revenir un tout petit peu, après je reviendrai sur des exemples plus précis, pour revenir un tout petit peu sur les exemples de voyager autrement, je trouve ce qui est vraiment important quand même, et qui se passe aujourd'hui à grande échelle, on va dire, et de manière positive, c'est cette réflexion qu'il y a autour du tourisme de proximité, hein, qui malgré tout, malgré ce que je viens de dire, hein, pour l'exemple de Marrakech, se développe, hein. C'est que les gens redécouvrent d'une certaine manière un territoire, redécouvrent, je dirais, ça c'est le côté positif des choses, hein, redécouvrent leurs voisins un peu plus que peut-être le type au bout du monde. Donc il y a, simplement, c'est aussi le fric, c'est que les gens ont moins d'argent. Ils ont moins d'argent, donc d'une certaine manière, ils vont aussi se rapprocher un petit peu de ce qui est de leur territoire et de leur terroir. Après, le problème, c'est un autre problème de nouveau, c'est quand l'identité vire à l'identitaire, quoi. Hein, vous voyez, donc ça devient compliqué. Hein, c'est ce que j'appelle un peu le problème du terroir caisse aussi. Hein. C'est un peu le terroir caisse, quoi. C'est le terroir devient vraiment un prétexte à faire du business et du fric tout le temps pour les développeurs locaux, les dynamiques territoriales, enfin, tout ça, hein, tout ce langage-là. Donc c'est vrai que là, il y a parfois une surexploitation, hein, de tout ce qui est labellisation, les chartes, la OC, enfin, ce que vous voulez, quoi. Et ça, c'est aussi un problème en France, par exemple, hein, mais où, par exemple, comme c'est très à la mode, un petit peu, de jouer sur les pays, quoi, de nouveau, hein, c'est... Et donc, de ce repli sur soi, parfois, malheureusement, il est un peu malsain aussi. Hein. Donc là, c'est aussi à chacun de voir comment il y a moyen de dynamiser cela de manière saine. Hein. Et c'est là où, donc, même si le tourisme de proximité, je pense que c'est vraiment une bonne chose, parce que ça participe à ce mouvement quand même qu'on appelle disons, en gros la décroissance qui est fondamentale je pense pour les temps à venir même si c'est pas très à la mode encore aujourd'hui donc c'est quelque chose qui est quand même assez important donc le tourisme de proximité deuxième chose qui me paraît fondamentale qui va avec c'est un petit peu tout ce qui est ce qu'on appelle les voyages doux les voyages lents les modes lents enfin, etc de transport hein. Donc c'est privilégier évidemment tout ce qui est pas la bagnole enfin et l'avion, quoi. Donc, la marche, le vélo, le train, notamment ces trois, hein. D'accord. Donc, là aussi, il y a toute une réflexion là-dessus qui est assez importante. D'ailleurs, moi, j'ai souvent ce problème-là parce que je prends encore beaucoup trop l'avion et j'ai beaucoup de mal à expliquer pourquoi je prends l'avion. Et j'ai bien envie d'aller l'an prochain à Bali en vélo et en train, mais ça prend quand même pas mal de temps, quoi. Mais je vais le faire. Mais bon, vous voyez, c'est assez compliqué. Du coup, parfois, je suis en contradiction moi-même parce que on est tous complètement pressés par le système quand même à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est un travail compliqué, hein, cette histoire-là. Et rappelez-vous ce que j'ai dit sur les low cost. Aujourd'hui, on a une vraie une stratégie, je dirais, vraiment de séduction hein, de la part des... Et c'est quand même aberrant de pouvoir... Enfin, moi, je prends l'exemple. Une fois, j'étais à Strasbourg, je voulais à Istanbul. Donc, je veux prendre le train. Ça me paraît normal, enfin... Sympa en plus, l'Orient Express, fait rêver, enfin tout ça quoi. C'est... Et donc, je vais à SNCF et je demande. T'es là-bas, ils me disent, mais vous êtes fou. Faut pas prendre. Donc la SNCF, ils me disent ça, faut pas prendre le train, c'est beaucoup trop cher et c'est beaucoup trop long. Effectivement, donc ils m'ont donné tous les prix, enfin tout ça, et puis ils m'ont pas trouvé de prix sympathique, tout était extrêmement cher, ils m'ont dit, mais la SNCF, vous pouvez vous trouver des vols pas chers. Donc aussi, on est quand même dans quelque chose où j'ai l'impression d'être non seulement subversif, mais en même temps l'idée du voyage, hein, je dirais, sans jeu de mots. Donc c'est un petit peu bizarre qu'on en arrive à c'est un petit peu scandaleux à mes yeux. Et donc on a beaucoup de situations un peu dans ce genre-là. Quoi. Après, donc j'étais dans les voyages lents, le tourisme de proximité. Après, je crois qu'il y a aussi toute une réflexion sur l'essence même du voyage. Hein. Donc, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, moi, j'avais prévu de faire ma conférence et partir d'images. Bon, il n'y a pas d'images, donc je suis un peu obligé de faire de l'improvisation. Mais je veux dire, c'est la même chose dans le voyage. Hein. Dans le voyage, on n'arrive plus à improviser. Hein. Et comme on n'improvise plus, bah, je veux dire, les gens, ils râlent, quoi. Ils s'emmerdent, quoi. Hein. C'est terrible de voyager quand tout est prévu. Et qu'est-ce que vous avez de plus en plus en 20 ans quand vous observez la clientèle touristique, pour être un peu sérieux ? Vous voyez une dégradation hein, des gens. Parce que plus les gens sont mal dans leur peau, donc dans le mal-être social, si vous voulez, hein, de la vie, la famille, le travail, tout ce qu'on connaît, quoi. Hein. Et donc, plus les gens, ils se lâchent, quoi, en voyage. Hein. Donc, en vrai, ils sont très exigeants hein, et souvent, ils se plaignent. Hein. Ils sont même souvent très, très compliqués à gérer quand vous êtes guide, par exemple. Hein. Donc moi je dis ça parce que j'ai souvent été aussi guide pour mon boulot, pour travailler sur les touristes et pour travailler comment ils fonctionnent les touristes et puis voir les conséquences locales. Donc j'ai souvent fait ça en Asie. Mais je vois par exemple récemment, je connais des guides vietnamiens par exemple. Je ne veux pas dire on va me traiter de discours anti-français, mais c'est pas ce que je veux faire. Hein, mais c'est juste un exemple. Je connais des amis qui sont guides vietnamiens ou indonésiens qui sont francophones, qui sont des guides francophones spécialisés pour cette clientèle-là. Eh ben, j'en connais pas une petite série là qui refuse de prendre des Français quoi. Ils sont trop chiants les Français quoi. Donc c'est terrible. C'est un peu schématique hein, vous avez bien compris hein, évidemment. Hein, je fais ça exprès pour être un peu provoque. Mais c'est important de comprendre, c'est qu'ils prennent des Québécois, des Suisses et des Belges. Et ça c'est le problème des hein, les Suisses et les Belges par exemple, c'est des petits pays tout ça. Hein, enfin, hein, les Québécois c'est une minorité opprimée, enfin plus ou moins. Donc on va dire que d'une certaine manière, quand on est à l'étranger. Parce que le français, quand il est à Paris, il est d'une certaine manière, mais quand il se retrouve, par exemple, à Ho Chi Minh-ville, hein, quand il se retrouve, à Dakar, ben, le français, il est français. Hein, donc, il a l'impression d'avoir la meilleure nourriture au monde, d'être le French lover par excellence, et puis en plus, d'être le pays des droits de l'homme. Quoi. Donc c'est très compliqué pour un guide local parfois à gérer. Hein. Et effectivement, bon, je sais pas, mes amis vietnamiens, ils disent, nous, on a gagné deux guerres, une contre les Français. On aimerait bien qu'ils nous embêtent plus trop, quoi. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant et en même temps assez inquiétant quand on voit que les jeunes de 20 ans, on pourrait penser que c'est les gens qui ont 60 ans qui se comportent un peu comme ça, pour des réseaux historiques, etc. Et en fait, on voit qu'il y a un phénomène de mimétisme presque, hein, de l'ordre de l'inconscient, pour les gens de, ben, qui ont 20 ans, qui parfois se comportent de la même manière. Une fois plus, c'est un petit peu lié, je crois, à ce côté de mal-être dans notre société, hein, simplement. Hein, ce sentiment d'être dans un pays en déclin, par exemple. Hein. Et ça, vous le voyez quand vous allez dans un pays comme le Vietnam, quand le type il prend sa première nuit d'hôtel et il voit qu'à 1h du matin, il y a le marteau-piqueur qui commence à bosser, il râle, il descend, il râle, il dit « c'est trop de bruit ici ». Qu'est-ce qu'il dit à la réception? Nous, on est un pays en développement. Ça avance chez nous. Enfin, on bosse tout le temps, quoi. Même la nuit. Et donc, ça crée déjà, c'est bête. Mais c'est un exemple intéressant dans le sens où on voit que les gens, ben, ils supportent pas, d'une certaine manière. C'est intéressant. C'est un exemple un peu. Après, vous avez aussi des tests que j'ai pu faire comme ça avec des familles ou des groupes de touristes que j'emmène, par exemple, à Bali, pendant une année. Bali, c'est donc en Indonésie, c'est un pays qui a rien à voir avec la colonisation ou l'histoire de France dans notre imaginaire, hein, dans nos représentations collectives, ça c'est pas présent, quoi. C'est le ganz ander, comment dire en allemand, hein, c'est le tout autre, hein. Donc c'est quelque chose qui est complètement différent, quoi. Et donc à ce niveau-là, donc on a une certaine tolérance. Le français trouve ça sympa parce que bon, bah c'est, on comprend pas, puis on n'a pas d'histoire avec ça, puis en plus en France on connaît rien sur l'Indonésie. C'est un endroit où on connaît rien, puisque en fait ça fait pas partie de notre univers. Ah, la preuve, vous aurez. Non, mais je veux dire, en Indonésie, on connaît pas, dans le sens où vous allez à l'école, vous avez pas parlé de ça, quoi. Hein? Ouais, non, mais il y a plein de gens, je pense, qui étaient. Ouais, pareil, c'est possible. Mais bien sûr. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en Indonésie, les gens, ils trouvaient ça sympathique, et quand les mêmes personnes, je les emmenais au Vietnam, ils se comportaient pas de la même manière. Hein? D'une certaine manière, ils étaient psychologiquement dans un endroit où c'était, d'une certaine manière, c'est la France qu'ils ont perdue, quoi. Donc, d'une certaine manière, on voyait que, ben, ils étaient pas très sympas, ils disaient, hein. Donc, quelqu'un m'a, par exemple, dit, ah, la baie d'Along, c'est très beau, mais faudrait la mettre en Auvergne, comme ça, ce serait les Vietnamiens, quoi. Vous avez des gens, d'un seul coup, comme ça, ils se lâchent, hein. Parce que, alors que la même personne n'a pas réagi comme ça, je dis pas tout le monde, hein, c'est des exemples, hein, que je donne. Ah, bien sûr, évidemment, c'est des exemples, après. Et donc, on voit que certaines personnes, comme ça, pètent un plomb, hein, de certaine manière, hein, d'un moment donné, d'un seul coup, se comportent de manière très, très bizarre. Et plus la situation est radicalement... Vous êtes dans une situation d'altérité radicale, si vous voulez. Hein, par exemple, chez les chamans ou chez les papous, en Papouasie, j'ai été dans ces endroits-là, souvent, et je vois comment les gens réagissent là. C'est des voyages très chers, hein, donc c'est aussi assez particulier comment ça se passe dans ce genre de destination. Ben, vous avez beaucoup de gens qui ont un choc. Hein, c'est par exemple un psychiatre qui s'appelle Régis Hérault a écrit un bouquin très bien sur l'Inde, qui s'appelle Fou de l'Inde. Et lui, il était médecin à New Delhi pour voir les problèmes des voyageurs français quand ils arrivent en Inde. Parce que souvent, quand ils arrivent en Inde, ils ont un gros problème d'adaptation. Et ils pètent un câble. Hein. Quand en Inde, souvent, beaucoup de jeunes comme ça versent dans la drogue ou dans des problèmes parce qu'ils n'arrivent plus à gérer l'altérité, simplement. Et donc, c'est intéressant de voir que chez les papous, bah, c'est un peu du même ordre. Hein. Après, là, vous avez les hommes tout nus, c'est très impressionnant, on arrive comme ça. Et donc, il faut gérer tous ces problèmes-là, hein, par rapport à ce tourisme voyeur. Hein, parce qu'il y a aussi ce problème-là, hein, on est aussi dans du voyeurisme. Et là, il y a quelque chose qui est très malsain, qui se met en place, quoi, très souvent. Hein. Bien sûr, mais je suis le premier à penser ça. Ouais. Non, mais là, moi, j'essaie de vous montrer ce qui va pas très bien, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas dans le voyage. C'est ça.
Excusez-moi, c'est juste un petit aspect technique comme ça. C'est quand vous voulez dire quelque chose, il faut demander le micro, parce que c'est enregistré, et on le met sur Internet après, et puis on n'entend pas du tout ce que vous dites, et ça fait une réponse à une question qu'on n'a pas entendue. Pour les gens en Papouasie, Nouvelle-Guinée, qui écoutent, ensuite, c'est gênant, quoi. Ou au Vanuatu, voilà. Donc, si vous voulez, je vous passe le micro. Vous demandez, c'est tout, et ça marche.
Allez-y.
Oui, bonsoir. Vous parliez tout à l'heure du Vietnam. J'ai eu la chance d'y aller il y a au moins une quinzaine d'années. Mais je peux vous dire, je suis allée dans la région, dans le nord du Vietnam, et je ne me sentais pas très à l'aise parce que justement, quand on rentrait dans des établissements, dans des cafés, on voyait les morts qui étaient là. Ben, je peux vous dire que les gens nous ont quand même extrêmement bien accueillis.
Bien sûr. Ben,
parce qu'on n'est pas venu en pays conquis, on était déjà très humbles. Mais je crois que vous réduisez trop.
Vous donnez
l'affreuse image du touriste de masse. Je suis désolée. Ouais. Je suis désolée. On ne voyage pas que comme ça. Qu'est-ce que vous faites des voyages individuels? D'abord, aussi les guides, parce que j'ai fait les deux, hein. Mais j'ai rencontré des guides merveilleux qui ont fait aimer leur voyage, qui ont fait aimer le pays, qui ont donné justement... les petites choses qui pouvaient ne pas aller. De toute façon, vous savez très bien quand vous partez que vous n'allez pas retrouver la France, parce que sinon vous n'avez qu'à y rester. C'est donc pour découvrir autre chose.
Mais là, je suis complètement d'accord avec vous, mais tout le monde ne fait pas comme ça. Tout le monde ne fait pas comme ça. Ça, c'est important. Alors, c'est vrai qu'après, on peut parler de tout ce qui est positif. Hein. On peut parler de tout ce qui est positif. Mais c'est facile de parler aussi de ce qui est positif. Je vous ai dit que, de toute façon, ce qui est important dans le tourisme et dans le voyage, c'est justement ce fait que c'est une ouverture. Hein. Évidemment, c'est une ouverture et c'est un enrichissement mutuel, évidemment. Je suis promis à être d'accord avec ça. Hein. Sinon, mais je veux dire, ce qui est important, c'est qu'il y a aussi, en fonction de l'évolution de 20, 30 dernières années, il y a aussi de nouveaux problèmes qui apparaissent. Hein. Parce que ça, c'est quelque chose qui... Enfin, plus les problèmes qu'on a ici, on les trimballe, on les transporte parfois ailleurs. Et c'est aussi une réalité qu'on peut malheureusement constater. Et ça, c'est quelque chose qui est... Maintenant, c'est vrai qu'une fois plus, moi, je suis le premier à être d'accord avec vous, dans le sens qu'il y a des choses très, très positives. Et je sais pas, moi, les gens avec qui je travaille sur place sont extrêmement accueillants, enfin, etc. Et tout ça. Ça, c'est une réalité. Maintenant, c'est juste... après, moi, je... Après, on peut parler de... Je sais pas, peut-être on peut intervenir, on peut débattre, hein, si vous voulez. Hein, si ouais, on peut commencer tout de suite à... Ouais.
Il y a des questions déjà.
Comme ça, on peut ça marche pas, lancer sur des thématiques qui vous...
Est-ce qu'il y a des interventions des gens qui ont... Tu veux dire quelque chose? Non,
non.
Ouais. Voilà, on a une. Ah ouais, bon, ça c'est... Donc c'est... Ah bah bon. Il y a des gens qui demandent que le conférencier continue, d'autres qui veulent intervenir.
Oui, par rapport au tourisme, il y a une chose qu'il faudrait quand même, pas besoin d'aller loin, il suffit d'aller dans l'île de Ré pour voir l'augmentation du prix des terrains qui fait que les personnes sur place n'arrivent plus à acheter une maison. Et ça se reproduit à peu près partout dans le monde. Dès qu'il y a un endroit qui devient un spot de vacances très prisé, les gens du pays ont de plus en plus de mal à réussir à rester sur place et à continuer de vivre normalement dans leur pays.
Ah oui, c'est sûr que après il y a une fois plus il y a un rapport, ce qui est quand même très important de mon côté, puisque je parle beaucoup des pays du Sud, d'accord. Donc je parle forcément beaucoup des relations Nord-Sud. Hein. Une fois plus, c'est très différent quand on fait du tourisme. Je sais pas moi, un Belge qui va au Québec, hein, on est dans des relations beaucoup plus égalitaires à la base. C'est très important, hein, de comprendre ça. Donc c'est-à-dire que par exemple, c'est assez important. Je prends l'exemple de Bali où j'habite. Je vois qu'à Bali, justement, dans le sud de l'île, je veux dire, ça devient très difficile. Mais ce n'est pas uniquement une raison. C'est pas seulement. Une fois plus, je ne suis pas en train de dire que c'est la faute des touristes. Hein. Le tourisme est un des vecteurs, d'accord, de la mondialisation par rapport à ce qui peut se passer au niveau des flux, etc. Et donc, ce qui est important juste, c'est que, je prends l'exemple tout bête, c'est la gestion de l'eau. Hein, c'est des choses importantes. Hein. Ben voilà, la gestion de l'eau, que ce soit les golfs ou les villas ou tout le reste... Hein. Alors, ce que je vous dis là, c'est aussi valable en Corse. Donc, on peut voir que tous ces problèmes-là, on peut les connaître. Mais dans les pays du Sud, c'est beaucoup plus grave que chez nous, parce que ça prend des proportions dramatiques. Et voilà. Et donc, ça aussi, après, maintenant, une fois que j'ai dit ça, moi, j'aimerais vous parler, par exemple, aussi de l'évolution, si vous voulez, un petit peu de choses bizarres qui se mettent en place, hein, suite un petit peu à nos réactions. Après, on peut parler des choses qui sont très bien. Hein. On peut aussi dire des exemples fabuleux sur le voyage. Mais je veux dire, moi, je pense que c'est intéressant d'essayer d'avoir une argumentation critique par rapport à ce qui ne va pas, quoi, hein, pour essayer de comprendre un peu aussi les problèmes qui existent aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus des contrastes très forts, quoi, hein. Vous avez de plus en plus des migrations sud-nord et nord-sud qui se croisent, hein, par exemple. Donc, sur une plage en sud de l'Espagne, vous allez trouver... un couple de Suédois qui est en train de bronzer à côté d'un Sénégalais qui est mort échoué sur la plage. Hein. C'est ça la réalité aujourd'hui aussi des flux et des rencontres qui peuvent se passer. Hein. Et aujourd'hui, il y a une banalisation de tout cela, hein, simplement pour des problèmes déjà évoqués. C'est qu'il y a une banalisation un petit peu, hein, je dirais, une sorte d'individualisme grandissant qui pose un problème aussi par rapport à la consommation. D'une certaine manière, on devient un consommateur de plus en plus de territoire, d'exotisme. Et je veux dire, par exemple, vous avez des formes, des formules de voyage de plus en plus bizarres, inédites, si vous voulez. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler, vous avez des formes comme, je prends l'exemple, vous avez entendu le truc le plus courant, le plus connu, peut-être c'est les favela tours, hein. Donc c'est par exemple des tour opérateurs qui proposent de faire le tour de Rocine à Rio de Janeiro, par exemple, hein, pour voir comment vivent les gangs et vivent les plus pauvres. Donc on est dans un tourisme voyeur compliqué. Alors évidemment, le tour opérateur, il dit c'est pour mieux comprendre la société brésilienne et les pauvres, comment ils vivent. Après, c'est très complexe parce qu'il y a de tout, une fois plus, comme dans, hein, on peut trouver de toutes les raisons imaginables. Vous avez par exemple, en Lettonie, vous avez une ancienne prison du KGB où les gens sont déguisés en type du KGB, les gens se font enfermer pour que, et soi-disant, c'est un tourisme de mémoire. C'est pour montrer comment c'était quand les Russes étaient là. Très bien, mais bon, c'est assez problématique. Après, vous avez un exemple aussi qui est assez connu, dont les médias parlent de temps en temps. C'est au Mexique, vous avez peut-être entendu parler, des endroits où les gens jouent, hein, tout simplement à l'immigré clandestin mexicain qui veut aller aux États-Unis. Donc les gens ils payent pour ça, $20 pour la nuit. Et en fait, ils sont traqués par les flics, des faux flics, hein, et ils sont tabassés. Et le but, c'est qu'ils comprennent bien comment c'est, que c'est tellement très difficile. Et parfois, c'est les Mexicains eux-mêmes. Hein, donc c'est souvent des Mexicains qui vont faire ça pour essayer de les dissuader de partir. Vous voyez que c'est un procédé complexe. Je vais vous montrer, on est aujourd'hui dans des formules touristiques très bizarres aussi qui existent. Hein. Le jour du déclenchement de la guerre en Irak, par exemple, en mars 2003, okay, vous vous rappelez de ça, quand Bush il a attaqué Bagdad, ben, y a un tour opérateur hongrois qui a dit, qui a prévu le coup une semaine avant, qui a dit « Moi, je vous fais un voyage pour voir vraiment Bagdad sous les bombes. Hein, » c'était ça, pour essayer d'être là au moment voulu. Donc on a de plus en plus une offre qui est complexe. Et même dans les choses qui sont où il y a un mélange, par exemple, de travail de mémoire, hein, de devoir de mémoire, si vous voulez, mais aussi de voyeurisme et parfois de tourisme un peu malsain, ça peut exister, comme par exemple, c'est pas simple quand on, alors c'est, quand vous voyez par exemple des lieux comme S21, je prends l'exemple à Phnom Penh, hein, qui est un lieu où les Khmer Rouges les avaient fait un centre de torture, et c'est très intéressant parce que ça montre vraiment, c'est important d'aller voir des endroits comme ça, hein, parce que ça, mais en même temps, ils sont en train de réfléchir là-bas comment mettre ça en tourisme, de manière intelligente, et c'est un vrai débat. Ensuite, vous avez un lieu comme Auschwitz, hein, ça vous entendez, vous savez. Voilà, bon, bah, quand vous achetez des cartes postales ou vous prenez en photo, c'est pas simple à gérer sur ce qui se passe vraiment par rapport à ce que c'est que faire du tourisme. C'est pour ça que je pense que voyager autrement, c'est vraiment un questionnement qui doit être d'abord individuel, au sens que chacun, c'est une question très personnelle. On peut pas, c'est pas en payant. Moi, je prends l'exemple, j'ai emmené des touristes qui ont signé des chartes éthiques et tout ce que vous voulez, quoi. C'est très bien. Mais j'ai vu aujourd'hui dans un même groupe des gens qui ont signé des chartes éthiques et des gens qui ont dit, ah, moi, je la signe pas parce que j'ai pas envie qu'on me dise ce que je dois faire, d'accord? Ben, dans le groupe, c'est pour ça que c'est complexe. Et qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'ils sont en train de faire un trekking, par exemple? Quand ils rentrent dans un village, eh ben, y a ceux qui ont signé la charte qui se sont comportés de manière pas du tout bien, encore, hein, que ce soit pour les photos, que ce soit pour. C'est comme ça. Et ceux qui n'ont pas signé la charte qui étaient très bien. Donc parfois, on voit que c'est pour se donner bonne conscience. Enfin, juste un exemple, hein, c'est pour se donner bonne conscience qu'on fait des choses. Une fois plus, je ne généralise pas, hein, je dis bien des exemples précis. Hein, c'est bien, hein, je ne suis pas en train de dire que tout le monde est comme ça. C'est juste pour montrer qu'on est devant un phénomène où c'est chaque individu, quand il voyage, il doit se poser ces questions-là. Et ce qui est important, je crois, le plus pour voyager autrement, plus que de trouver des formules toutes faites ou des recettes, soi-disant, qui pourraient exister, je crois que c'est d'abord se poser la question nous-mêmes, qu'est-ce que nous-mêmes on est face à l'autre. Par exemple, quand on va chez les Lapons, ou, par exemple, on a d'autres codes de salutation, de rencontres, d'hospitalité qui existent. Pareil chez Touareg, quand vous allez, je sais pas, en Amazonie, partout où vous allez, voilà, vous avez des rituels, hein, si vous voulez, qui existent. Hein, comme là, vous avez le chant des étudiants. Ben voilà, vous avez partout où vous allez, vous avez quelque chose qui se passe. Et je veux dire, ce qui est très difficile pour nous, parce que simplement, on n'a pas été formaté comme ça dans notre éducation, c'est par exemple d'écouter plutôt que de parler, quoi. Par exemple, c'est très difficile quand on va quelque part. C'est qu'on a toujours envie de montrer, voilà. Et donc, parfois, c'est tout un cheminement. Moi, je sais qu'il y a des villages Hmong au nord du Vietnam, par exemple, où j'ai souvent emmené des gens que je connais bien. Ben, je veux dire, à un moment donné, les gens, ils disent quoi? Ils disent, ben, oui. Ils étaient très sympathiques, les gens. Ils disaient, ah ben, ils ont promis qu'ils allaient envoyer les photos aux gens du village là-bas. Et je veux dire, je suis passé la fois d'après, et comme les gens, je suis assez proche à eux du village, ils ont dit, mais nous, on ne veut plus que tu ramènes des blancs ici, parce qu'ils disent toujours qu'ils envoient les photos, ils n'ont jamais envoyé les photos, on n'a jamais récupéré les photos. Par exemple, hein, juste, c'est un peu. Et donc, après, à un moment donné, qu'est-ce que je fais? Je vais pas les emmener dans ce village-là, je vais les emmener dans un autre village. C'est juste un exemple, mais il y a des exemples comme ça, il y en a plein. Après, heureusement, vous avez des expériences super géniales, quoi, hein, d'accord, c'est bien clair. Par exemple, où des échanges vont vraiment naître. Mais l'échange, c'est quoi? C'est quelque chose qui est mutuel, quoi. Hein. C'est pas demain que, quand quelqu'un va, par exemple, je sais pas, au Cameroun, voir les pygmées Baka dans le sud du Cameroun, je veux dire, si c'est très bien, quelque part, lui, il a travaillé toute l'année, il va là-bas, il se ressource, hein, comme le dit la pub de Nouvelles Frontières dans le métro, par exemple, hein, il se ressource grâce au voyage. C'est très bien. Et c'est souvent, qu'est-ce qu'on voit aussi comme publicité? On voit partir pour mieux revenir. Hein. Donc, ça veut dire aussi ce que ça veut dire. Hein. Mais en même temps, moi, je connais des pygmées qui me disent, moi, je suis dans mon village. J'ai deux solutions. Il faut essayer de se mettre un peu à leur place aussi. Hein. C'est que moi, je ne vais pas aller en France. Si moi, je vais en France, d'abord, je n'ai pas l'argent pour y aller. Deux, je vais me faire virer. Je vais me faire mettre les chaînes. On va mettre dans le premier charter qui va passer. Et puis, deuxième truc qu'ils me disent, c'est que qu'est-ce que j'ai comme solution pour être content? Je veux dire, soit je fais comme les Maasai, je compte quand le type il me photographie, je lui dis voilà, 1, 2, 3, 4 dollars chaque fois, toutes les minutes qui passent, hein, comme il faut chez les Maasai, ou alors il me dit je prends mon fusil, je leur tire dessus, quoi. Donc on est dans une situation aujourd'hui complexe sur le plan géopolitique dans certains endroits. Hein, et ça c'est important, parce qu'il y a eu trop de problèmes. Quand vous allez, je veux dire, à Varadero, à Cuba, pour ceux qui étaient à Cuba, je sais pas, sans doute il y en a. Vous avez la zone verte qui est la zone de Varadero. Je veux dire, vous entrez quand vous avez des dollars. Les seuls Cubains qui ont le droit d'être là-bas, c'est les serveurs et les prostituées. Et c'est comme ça, quoi. Je veux dire, à un moment donné, vous avez plein de choses qui se mettent en place qui sont malsaines, quoi. Je veux dire, une fois plus, ça n'empêche pas qu'il y a plein d'expériences intéressantes quand c'est dans l'échange mutuel. C'est-à-dire, par exemple, quand il y a des choses qui restent. Hein. Par exemple, de la même manière, c'est-à-dire l'échange, c'est-à-dire quoi? Parce qu'à un moment donné, vous invitez le Sénégalais, vous l'invitez chez vous et vous vous démerdez pour lui trouver un visa, quoi. Par exemple, des choses comme ça, pour qu'il vienne chez vous, et voilà, et pour qu'il se passe un vrai échange culturel, durable, quoi, si vous voulez. Ou alors, l'autre exemple, qui parfois peut m'énerver un peu, c'est vraiment, il y a beaucoup de gens qui sont, c'est un peu une manie aussi de notre société, c'est de collectionner plein de choses, hein, de l'accumulation des biens, si vous voulez. Hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, d'une certaine manière? Ben, on va acheter des souvenirs tout plein pour remplir le séjour, la salle à manger, tout le monde. Et donc, par exemple, vous avez les gens, ben, ils vont acheter, je sais pas moi, voilà, un bouclier Asmat. Donc, c'est très bien, un bouclier Asmat, mais le problème, c'est que bon, c'est plus intéressant parfois de pouvoir peut-être, à mon avis, hein, je veux dire, acheter ou échanger des choses comme par exemple un luth traditionnel que vous allez peut-être trouver et après vous jouez ça ou quelqu'un va jouer ça avec vous ou alors vous achetez une cassette ou un CD de musique, vous pouvez partager. Si vous achetez, je sais pas moi, un truc de samba ou n'importe quoi, vous montrez, vous faites écouter ça à vos copains, ça donne vraiment quelque chose, un échange, vous pouvez vraiment échanger quelque chose. Ça donne quelque chose. Alors que si vous le mettez, vous achetez un truc classe, vous le mettez dans un truc, c'est une fois plus, c'est une appropriation de certaines manières. C'est ce que Marcel Griot et Michel Léris, ils ont fait quand ils ont fait Paris-Djibouti. Ils ont rempli le musée de l'homme avec des trucs qu'ils ont piqués, quoi. Je veux dire, tout le monde, voilà, c'est l'histoire de l'Occident. Faut bien quand même comprendre dans quoi on est. Après, vous avez aussi ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire, vous avez autre chose qui est intéressant, c'est le bouclier Asmat dont je vous parle. C'est comme ça que j'ai souvent vu. C'est qu'après, vous avez des gens, des asthmates qui sont vraiment perdus dans la forêt sud de Papouasie. Et puis on voit les gens, ils font des boucliers pour eux. Puis il y a des gens qui passent, très rarement, des touristes. Et puis ils disent, ah mais super. Et puis les gens commencent à vendre les boucliers, leurs propres boucliers. Puis évidemment, vous avez, il m'est arrivé des trucs assez terribles. Genre le type, il avait un bouclier qui est sympa. Le voisin, il était moins bien, son bouclier. L'autre, il en avait deux. Les touristes, ils sont là. Ils veulent ce qu'ils aiment bien, quoi. Hein, ce qui est logique. Donc, ils achètent, ah moi je voudrais celui-là, ben, le problème c'est qu'il faut que le guide, bon, en l'occurrence c'était aussi moi, hein, donc il faut gérer en amont, c'est-à-dire il faut faire pour que le chef du village distribue l'argent pour tout le monde, sinon il y en a un qui a tout l'argent, et là c'est l'équivalent de un an quoi, pour bouffer quoi, et donc ça crée des inégalités terribles entre les gens, etc. quoi. Et donc là aussi on est parfois dans des situations où la responsabilité évidemment des guides, des intermédiaires est essentielle quoi, hein, je veux dire. Mais je veux dire, on a aussi des conflits qui vont se créer comme ça. Je veux dire, je reprends l'exemple, je sais pas, au nord du Vietnam, dans un village thaï, par exemple. ben, à un moment donné, il y a des gens qui me disent ah, moi j'ai des. Voilà, c'est toujours le problème terrible que j'ai à gérer, c'est les gens qui veulent. Parce que l'homme occidental, si vous voulez, c'est quelqu'un qui est quand même. Ce que je vous dis, il y a un fléau qui est un peu problématique, à mon avis, c'est l'humanitaire. Hein. Parce que l'humanitaire, c'est parfois quelque chose qui n'est pas bon du tout. Hein. Donc, en voulant faire le bien, on fait beaucoup de mal. Quoi. Ça, vous le savez sans doute déjà un peu, je pense, mais c'est vraiment un problème. Et donc, vous avez des gens qui vont dans des écoles et ils me disaient « Ouais, tu connais pas l'institutrice là-bas ? Genre, là, j'ai 3000 stylos, il faudra leur donner. » Bon, le problème, c'est que c'est terrible, parce que moi, je connais des endroits au Vietnam, dans des villages, où vous avez des stylos par terre, partout. Quoi, je veux dire, parce que simplement, les gens donnent tellement de stylos que c'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est un exemple. Hein. Alors, évidemment, là, on peut toujours trouver une solution en donnant les stylos à, je sais pas, 200 km plus loin, mais tout ça, c'est assez compliqué à gérer. Hein, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Le problème, c'est qu'il faut rééduquer, si vous voulez, le touriste. C'est comme ça, à la base, qui est quand même très important. C'est qu'à un moment donné, faut je pense qu'en respectant les gens, on les aide en étant dans autre chose que dans l'aide. Hein. C'est tout le problème de la notion de développement, d'ailleurs. Et de, voilà. Donc, je pense que là, on est aussi dans quelque chose qui est très important. Un autre exemple, justement, parce que je suis dans le Nord-Vietnam, c'est quelqu'un qui vient et qui dit « Moi, je donne pas de stylo, je donne surtout pas de bonbons. » Alors ça, je ne parle même pas des bonbons. Hein, parce que les bonbons, c'est carrément une... Mais je dirais « Moi, je donne juste... J'ai deux ballons en... Les petits ballons, quoi. C'est bon. » Il dit « Ouais, ça, c'est vraiment pas dangereux, quoi. » Bon, alors, j'ai dû céder. J'ai devant la pression. Et en fait, il a donné les deux ballons à un gamin. Et bon, le problème, c'est que moi, je suis resté une semaine au village. Après, je suis revenu au village. Je suis resté une semaine pour tout seul, quoi. Et puis, les touristes, ils restent quoi ? Ils restent 3 heures dans cette maison hein, pour manger, puis c'est sympa et tout. Et puis, ils voient les gens avec le ballon, les gamins qui jouent très bien, ils sont contents. Moi, je reviens une semaine plus tard, ben, il y a eu un conflit entre les deux maisons, hein, parce que simplement, le grand-père, il voulait aussi le ballon, et la maison à côté aussi, depuis 5 jours, ils ne se parlaient plus. Parce que c'est des trucs qu'on n'imagine même pas, quoi. Hein. C'est bête, hein, ce que je dis comme exemple, mais c'est pour montrer que c'est compliqué parfois. On n'imagine pas les conséquences qu'on peut avoir un petit truc, quoi, de rien du tout. Quoi. Et donc, bon, voilà un petit peu. Alors, je suis désolé de dire des choses pas très sympas, quoi, mais je veux dire, c'est aussi la réalité parfois qu'on peut. Et je pense qu'une fois plus, pour voyager autrement, plus encore que toutes les formules hein, qu'on va vous proposer par les marketing touristiques habituels, ben, je pense que c'est d'abord une réflexion soi-même. Quoi. C'est qu'est-ce que nous, hein, on peut vraiment faire pour faire le moins de dégâts possible et pour être dans l'échange, c'est-à-dire dans l'échange mutuel et sain, quoi. Hein. Et je pense qu'il y a énormément de choses. Hein. Parce qu'on revient, on ne revient jamais indemne d'un voyage. Hein. C'est ça, même ça qui est important. Hein. C'est ça qui est fondamental. C'est de voir en quoi un voyage, ça nous enrichit, ça nous bonifie. Hein. Je pense que c'est surtout ça qui est important. C'est quelque chose qui est vraiment important pour eux. C'est d'arriver à avoir cette capacité-là à tout simplement nous remettre en cause. Hein. Nous remettre en cause notre... Voilà, tout à fait. C'est-à-dire à nous remettre en cause, mais aussi à nous interroger peut-être sur notre mode de vie, notre mode de fonctionnement. Moi, je me rappelle les gens que j'ai emmenés à un moment donné, des gens importants, des ministres, des gens comme ça, qui partent, donc c'est très spécial un peu, ou des écrivains. Et genre, ils arrivent dans des endroits, ils sont tellement stressés, surstressés. Alors, c'est des gens qui ont des 3 villas, qui ont 3 bagnoles, tout ça. Et quand on les met en situation, dans des situations un peu compliquées, donc je leur dis déjà le premier jour, vous enlevez les montres, vous enlevez tout ça. Alors quand on leur dit, c'est quoi le programme demain ? On se lève à quelle heure ? Je leur dis, demain le programme, c'est rien. Bon. Et après, la journée d'après, ça va être rien. Et je veux dire, le problème, c'est que le rien, c'est le plein. Quoi, hein. Bon, mais après, ça devient assez compliqué, mais c'est intéressant. C'est toute une démarche, en fait, un peu à l'envers, où en fait, la personne importante, si on veut, hein, d'un seul coup, réapprend. Hein. D'une certaine manière, comme un petit enfant, à vivre sur des bases peut-être parfois différentes. Et à un moment donné, vous avez des gens bah, qui commencent à pleurer, des gens importants comme ça, qui commencent à pleurer comme des madeleines quand ils sont assis sur le tronc d'arbre parce qu'ils voient, par exemple, les chamans, les amis à Sumatra, par exemple, qui s'occupent de leurs enfants toute la journée. Hein. Il n'y a pas d'électricité dans l'endroit en question, mais bon, ils sont avec eux, la rivière. C'est un peu rousseauiste, hein, alors ils voient le paradis comme ça un peu. Hein. Ça, c'est, évidemment, il n'y a pas de paradis, hein, mais on imagine un peu. Et du coup, les gens sont là, moi, voilà. Et puis, d'un coup, il y a toute leur vie qui défile. Hein, parce que c'est ça qui est important. Genre, ah, moi, je ne m'occupe pas de mes enfants, je suis toujours au boulot, je n'ai pas pu m'occuper. Donc, après, il y a une réflexion sur le travail, du coup. Hein, pendant toute la journée, on parle du travail, on travaille sur le travail. Et donc, c'est intéressant de voir comment ces réflexions prennent corps, hein, peu à peu, suite à tout simplement la pratique, hein, l'expérience du réel, si vous voulez. Les vieux. Les vieux.
Ils sont traités comme des personnes.
Ah oui, bien sûr, vous avez raison, vous avez raison. Et justement, c'est ce qui choque d'ailleurs beaucoup, enfin, vous le savez, hein, ce qui choque beaucoup les étrangers quand ils arrivent ici, par exemple, hein, je veux dire, c'est de voir comment on traite les vieux ici. Alors. Bien sûr, mais.
C'est formidable, les vieux, c'est. il va parler.
Ouais. Non, mais bien sûr, mais c'est pas seulement les vieux, c'est les, je sais pas, les enfants aussi. Enfin, bon. Après, il y a. Moi, je vois que. Moi, je suis dans des trucs sur l'éducation à Bali, des enfants, et très différent de l'éducation chez nous. Hein. Moi, je vois les gens quand ils vont à l'école là-bas ou à l'école ici, ben, c'est pas pareil, quoi. Le stress n'est pas du tout géré de la même manière. Hein. La pré-rentrée ou la rentrée, ça ne se passe pas de la même manière. Hein. Le sac, il n'y a pas de sac de 15 kilos pour les enfants qui ont 8 ans, quoi. Hein. Et vous avez plein de problèmes qui sont différents, si vous voulez. Et ça, c'est intéressant, hein, cette réflexion-là. C'est qu'on est dans d'autres systèmes éducatifs, dans d'autres manières de voir le monde. Je reprends juste encore un autre exemple qui va vous faire marrer un peu. C'est par exemple le travail, justement. Alors, vous avez par exemple un copain. Un copain balinais qui me dit j'ai vraiment des problèmes de fric, j'aimerais bien trouver, tu connais pas un client que j'aimerais que je peux emmener comme ça, un touriste quoi, que je pourrais emmener pendant 3-4 jours à moto, sortir un peu d'argent quoi. Alors je lui dis si j'envoie un, puis par hasard j'en ai vu un le lendemain, donc là il y a vraiment des problèmes de fric quoi. Alors je lui dis j'en ai trouvé un, et puis là il était lui en train de faire une partie de ping-pong où il avait parié 2 bières. Hein. Et je lui dis, voilà, j'ai trouvé un type, là, mais ça t'intéresse. Il me dit, non, mais là, je suis dans un truc vachement important, je peux absolument pas m'arrêter, je vais encore jouer 3-4 heures au ping-pong, quoi. On verra plus tard. C'est simplement parce que la logique, si vous voulez, du travail, hein, ou du côté dans le genre, n'est pas la même. Hein, c'est que simplement, la manière de vivre n'est pas. Si vous voulez, à Bali, vous avez par an plus de 180 jours fériés par an, par personne, hein. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de congés payés, hein, d'accord. Mais c'est simplement parce qu'il y a plein de rituels, il y a plein de fêtes, il y a plein de choses qui se passent, quoi. Et en fait, voilà. Et donc le groupe Accor, hein, alors, je ne sais pas le Novotel, si vous voulez, de Bali. C'est un peu cliché ce que je dis, hein. Donc, je suis désolé, c'est un peu pour être plus précis, hein, parce que je ne peux pas donner. Ben, je connais en tout cas des exemples où il a besoin d'un groupe de Français qui doit faire le tour de Bali ou doit aller faire une petite balade pendant 2 jours. Donc, il a besoin d'un chauffeur le matin qui vient à 8 heures. Ben, il va prendre quoi comme chauffeur? S'il veut être sûr que le chauffeur il arrive à l'heure, il va prendre un javanais. Un javanais, il est musulman. Parce qu'il sait que le musulman, il est sur la même base, on va dire, judéo-chrétienne, si vous voulez, quand même, à la base. Il va être à l'heure parce qu'il veut son salaire, il veut être payé, enfin, c'est vachement important, le boulot, il va se faire virer sinon, vous voyez, tout ça, toute cette logique-là. Il sera là. Il s'y prend un chauffeur balinais, ça se peut que le balinais ne vienne pas. Le travail étant souvent secondaire par rapport à la famille, par rapport à ce qui se passe au village, par rapport à faire les offrandes le matin, par rapport à plein de choses, quoi. Enfin, et donc, c'est une autre manière de voir le monde, quoi. Et cette manière de voir le monde, aujourd'hui, nous, on n'y est plus trop, quoi. Donc, parfois, vous avez des gens, quand ils sont en voyage, ils prennent conscience que d'autres gens voient vraiment les choses différemment. Ils sont pas forcément fous, quoi. Je veux dire, voilà. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est un cheminement lent et assez compliqué parfois. Mais peut-être.
Il y a une question là.
Petite question. À votre avis, ça marche même pas. Est-ce que c'est eux ou nous qui avons raison?
Je crois que c'est bizarre la réponse. Elle va pas vous satisfaire parce que je pense que la réponse pour moi. Je te dis toi, c'est bon. Je veux dire, je pense que personne n'a raison, personne n'a tort. Moi, je donne une réponse asiatique, mais sur ça dépend. Parce que voilà, c'est de la même manière que le tourisme, parce que c'est bien ou pas bien. Moi, j'ai pas de réponse à ça. Hein. Il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont pas bien. Là aussi, le côté binaire, hein, le côté George W. Bush. Hein, je parle pas de vous là, je parle pas de toi. Hein. Mais je veux dire, le côté genre, soit c'est bien, soit c'est le mal. Hein. Il faut sortir de ça, quoi. Hein. C'est la même manière, c'est très compliqué d'expliquer. Par exemple, vous savez très bien, je ne sais pas, les Japonais ou les Asiatiques, souvent, ils peuvent très bien cumuler 3, 4, 5 religions, quoi. Ça ne pose jamais de problème. Dans notre société, ce n'est pas possible. Moi, j'ai des copains musulmans qui s'appellent Krishna, qui vont aller prier avec des catholiques dans une église, ça ne pose pas de problème. Ils sont musulmans très, très pratiquants. Alors, en France, c'est très compliqué quand on parle de ça. Entre les protestants et les catholiques, déjà, c'est compliqué. Donc, vous voyez, on est dans un autre moule, quoi, simplement.
Pour moi, au Japon, ça m'a un petit peu agacé. C'est des gens super gentils.
Ouais.
2 mois au Brésil, je vais y retourner.
Ah ouais, la cachaça, c'est bon là-bas.
Je vais apprendre le portugais comme ça va bien et puis je vais y retourner. Ah oui.
Peut-être d'autres questions, peut-être non. Je ne peux pas monopoliser non plus la parole. Laissez peut-être.
Est-ce qu'il y a des...
Sinon, je peux continuer, mais je ne vais pas vous, saouler. Hein. Je vais pas vous saouler. Hein. On est à l'université des bistrots. Le but, c'est de vous laisser la parole. Alors, ce qui est intéressant, pour parler des bistrots, il y a un tourisme des pubs. Ça marche bien actuellement. Hein. Avant, j'étais dans les tourismes un peu bizarres. Vous avez un tourisme des pubs en Irlande qui marche, mais qui est devenu une niche, quoi. Donc, c'est quelque chose qui est exploité de manière très importante. Au Cambodge, vous avez la rue de la soif à Siem Reap, qui est aussi développée sur le plan touristique. Hein. Donc, c'est devenu des choses. Et au Brésil, parce que pareil, au Brésil, là, à Belo Horizonte, par exemple, vous avez un concours avec le meilleur café. Et donc, les gens font vraiment de la concurrence, en fait, hein, pour voir quel est le meilleur café par rapport à la musique, par rapport à l'animation, au service, etc. Donc, c'est intéressant de voir que, là aussi, c'est une niche, quoi. Hein. Actuellement, c'est le carnaval, là, bientôt, hein, au Brésil. Donc, c'est aussi pour montrer qu'aujourd'hui, ce qui marche beaucoup, c'est l'événementiel, c'est les choses précises. Hein.
Oui. Bonsoir. Moi, je voudrais juste revenir un peu à la thématique. Vous disiez voyager autrement, donc, quelles suggestions vous avez ? Moi, je suis agent de voyage, c'est mon métier.
D'accord.
J'ai fait la même chose que vous, j'ai accompagné beaucoup de monde. Mmh. Et aujourd'hui, j'ai des chambres d'hôtes à Doussa, tout à côté. Donc, ça me va très bien.
Proximité.
La proximité. Donc, je rejoins tout à fait ça. Ouais. C'est vrai que je vous rejoins dans certaines anecdotes. Malheureusement, pas dans toutes. Et heureusement, j'aurais tendance à dire. Parce que c'est vrai que c'est un côté un petit peu réducteur. Je crois que les gens qui voyagent sont quand même relativement sensés. Alors bien sûr, il y en a qui sont très fatigants, très pénibles, très stressés. Mais quand ils se documentent un petit peu avant, et c'est aussi notre rôle, je pense, en tant que conseiller de voyage, c'est de leur dire que justement, ils vont aborder des territoires différents, des cultures différentes, que les choses sont pas forcément appréhendables très facilement. Et je pense que, enfin, je parle pas que pour les Français, hein, tous les touristes ne sont pas tous que des abrutis.
Non, mais j'ai pas dit ça.
Non, mais bon, on a tendance un petit peu.
Je n'ai pas dit ça. Hein.
Non, vous ne l'avez pas dit, mais c'était quand même un peu sous-entendu. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Si, parce que vous dites qu'ils sont pénibles, qu'ils ne comprennent pas. Que...
Ben, j'ai dit certains touristes. Non, je ne dis
c'est
pas.
Vrai.
Ben non,
moi aussi, j'ai accompagné des groupes, entre autres à Mombasa, on attendait pour traverser le bac. Et les gens sortent une liasse de billets de leur poche arrière pour s'acheter des noix de cajou sur le marché. Et je comprends qu'effectivement, ce soit hyper choquant. Mais dans ces cas-là, on prend les personnes, on leur explique. Et c'est aussi notre rôle en tant qu'accompagnant. Alors effectivement, après, quel que soit le pays, vous vouliez dire. Voilà.
Je suis évidemment d'accord.
Enfin, c'est qu'en fin de compte, je pense qu'après, effectivement, comme vous disiez pertinemment, c'est qu'en fait, je pense que l'approche de chaque individu lui est propre et chacun a sa propre réflexion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous partez, alors évidemment, le tourisme de masse, les clubs, etc., je ne le prône pas non plus. Je veux dire, ce n'est pas ma façon de voyager. Ce n'est pas comme ça que je l'envisage. Mais il en faut pour tous les goûts aussi.
Bien sûr.
Par conséquent, c'est vrai que je pense que de plus en plus, et malgré la mondialisation et tout ce que vous évoquiez tout à l'heure, le touriste aujourd'hui est quand même relativement informé, sensé et adaptable, voire adapté.
Non, mais évidemment, je ne veux surtout pas caricaturer. Hein. Il ne faut pas comprendre ça comme ça, hein, parce que je suis tout à fait d'accord avec ça. Quoi. Simplement, ce qui est important juste, c'est que je pense que c'est vrai que je me positionne beaucoup plus du côté, comme je suis anthropologue à la base, d'accord, je me positionne beaucoup plus du côté des peuples du Sud, si on veut. Hein. Donc ça veut dire que, surtout pour le tourisme de proximité ici, ou pour, je pense simplement que c'est très différent quand on voyage... dans un endroit où les inégalités sociales et économiques sont très, très différentes et sont très fortes, et dans un endroit où c'est quand même très similaire. Je pense que simplement, c'est pas pareil. C'est beaucoup plus difficile de faire quelque chose de durable et de sain et de se comporter de manière bien. Mais évidemment que... Par contre, je suis évidemment complètement d'accord avec vous sur le rôle du guide. Moi, j'ai fait la formation de guide de Java partout, enfin au Vietnam et beaucoup en Indonésie. Donc, je vois quand même que c'est très, très important et c'est fondamental, hein, que ce soit sur l'écologie, que ce soit sur tout, quoi, sur tous les points. Mais ça, je veux dire, c'est pas la peine trop que j'en parle parce que ça me paraît, ça vous le savez. Enfin, je pense que les gens ici, vous savez tous que c'est important de voyager plus intelligemment, d'être plus conscient de la réalité du monde, etc., quoi, et d'être plus tolérant. Ça me paraît, comment dire, dans le bon sens, quoi, aussi. Les seules solutions que je disais de manière, mais c'est pas des solutions. J'ai pas de recette miracle, hein, comme sans doute pas grand monde. Hein. Simplement, je pense que c'est de l'humilité. C'est être plus humble face aux gens qui sont en face de nous. Hein. C'est être plus humble, ça veut dire faire preuve de curiosité, de modestie, hein, et simplement et d'humilité. Ça me paraît pour moi. Peut-être le premier pas, c'est peut-être pas très clair hein, pour vous, mais...
Si, c'est clair, justement, parce que là, en fait, vous approchez une forme de solution. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est vrai, quand vous disiez tout à l'heure « voyager autrement », on s'attend au départ, enfin, du moins, c'est ce que j'attendais, à ce que, justement, vous partiez sur des pistes de conseils pour pouvoir évoluer dans ce sens. Hmm. Et non pas, en fin de compte, moi, ce qui m'a un petit peu dérangé dans votre discours, mais je me permets de le dire tel quel, c'est qu'en fait... vous avez donné beaucoup d'anecdotes qui ne sont pas forcément positives.
Bien sûr, bien sûr.
Et que du coup, on perd un petit peu le fil. Moi, ce que je voulais, c'était justement que vous nous donniez ces conseils d'humilité, d'approche, de renseignement, enfin bon, tout ce qui peut aider le voyageur à voyager autrement, mais pas forcément très loin, loin et pas loin. Et quelle que soit la culture, de toute façon, il y a une telle multiplicité au niveau de la planète. Je voulais que vous me donniez plus de conseils, en fait.
D'accord. Mais juste pour vous répondre rapidement, c'est que si j'ai un peu donné des anecdotes assez négatives, c'est parce que beaucoup de gens dans le monde des voyagistes et d'aventure français, par exemple, hein, beaucoup de gens donnent énormément de conseils aujourd'hui, sur le net ou dans la réalité, y compris les voyagistes, tous les labels, tout ça, vous voyez, ATR et tout ça, enfin tout le monde. Hein. Donc il y a énormément de gens aujourd'hui qui donne des, enfin, il y a beaucoup de com, si vous voulez, hein, de marketing touristique autour de ça aujourd'hui. C'est pour ça que je me suis dit, bon, ça, il y a tellement de gens qui le font, c'est pour ça aussi que je donne des anecdotes négatives. C'était plus pour, comment dire, c'est un peu de la provoque, je l'avoue, mais pour moi, c'est comme ça qu'on fait parfois avancer les choses aussi. C'est parce que, quelque part, c'est avec, mais une fois plus, je ne suis pas caricature, je l'ai pas dit, les Français sont comme ça, d'accord? C'est des exemples. Mais non, c'est pas ce que je veux dire, pas du tout, hein, moi je travaille beaucoup avec. Mais simplement, moi, ce que je sais, c'est que encore il y a 6 mois, j'étais sur une île en Indonésie où j'ai vu trois guides. Il y a seulement 3 guides francophones. Bah, je veux dire, les types, ils disent, ils ne prennent plus de français. Ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est eux qui me le disent. C'est ça. Ils prennent des Australiens. Alors que les Australiens boivent de la bière tout le temps. Là-bas, dans ce coin-là. Hein, dans ce coin-là. Et ils me disent, mais au moins, ils boivent de la bière, mais au moins, ils n'en mettent pas tout le temps. Mais cela dit, c'est juste un exemple. Hein, une fois plus, je ne dis pas que tous les Français sont comme ça. C'est ça qui est important.
Bonsoir, moi je voulais revenir sur un fait. On parle beaucoup de tourisme, mais on ne parle que de tourisme avec les voyagistes, justement. En fait, il y a quand même un autre tourisme très important, de touristes individuels.
Tout à fait.
Qui ont des idées complètement différentes. Et je trouve que c'est aussi un peu réducteur de ne parler
que du
tourisme avec les voyagistes. Parce que quand on constate, par exemple, quand on voit les hôtels où descendent les voyagistes et les hôtels où descendent les voyageurs individuels, c'est pas du tout la même chose. On rencontre pas les mêmes gens. Donc je pense qu'il faut quand même aborder tourisme individuel.
Et c'est aussi
où on voyage avec les bus, où on va dormir.
Mais c'est aussi pour ça qu'un petit peu j'avais commencé avec Nicolas Bouvier, avec la Grand Route, enfin tout ça. Hein. J'avais un peu parce que mon idée évidemment du voyage, c'est pour ça que j'ai désolé pour les voyagistes. J'ai quand même dit parce que je suis quand même je pense que pour moi l'autonomie est très importante. Hein. Donc, pour moi, je pense qu'il faut faire une véritable éducation à l'autonomie. Hein. Et je pense que c'est très important. C'est pour ça que quand je parle d'éloge du voyage désorganisé, hein, ce n'est pas pour m'en prendre à quelqu'un. Simplement, c'est parce que ça me paraît très important. Hein. Parce que combien de fois j'ai entendu des gens, et je ne vais pas dire des Français, je vais encore me faire engueuler, mais parce que des gens qui, simplement, ils arrivent quelque part, ils me disent « Ah, maintenant, on a bossé toute l'année, maintenant, je m'occupe de rien, c'est toi qui les gères. » Bon, ça, c'est fatigant. Hein. Et évidemment, les touristes individuels, souvent, pas toujours, mais souvent, ont parfois des comportements, on va dire, différents, parce que simplement la culture n'est pas la même, hein, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas, dans un lieu pour réagir de la même manière. Ils attendent pas, ils n'ont pas les mêmes attentes, si vous voulez. Tout ça, je suis d'accord.
Il faut déjà travailler pour trouver.
Voilà, tout à fait. Par contre,
un hôtel, bien sûr. Comment se rendre d'un
tout à fait. Mais en même temps, je peux pas faire la défense du. Je vais être un peu critique aussi. C'est qu'en même temps, je peux pas faire la défense du routard, par exemple, parce que parfois, le voyageur individuel, c'est l'éclaireur du tourisme de masse. C'est lui qui parfois va chercher les endroits où parfois après. Enfin, j'ai vu beaucoup de choses comme ça aussi. Donc ça dépend. Une fois plus. C'est comme tout en fait. Hein. C'est du cas par cas, je crois. C'est beaucoup du cas par cas au niveau.
Il y a quelqu'un qui voulait.
Oui,
excusez-moi. Il y a peut-être aussi une confusion en ce qu'on appelle le tourisme et le voyage. Moi, je considère que le voyage a quand même une base qui est philosophique, quelque part. Et d'abord, on apporte. Hein, quand on voyage, on apporte d'abord. Hein, on ne vient pas que pour prendre. Et le tourisme est quand même, bon, c'est quand même le supermarché. On achète. Bon,
oui.
Pour voir comment c'est fait un petit peu, c'est tout compris.
Bien sûr. Mais ces distinctions.
C'est deux manières différentes de voyager. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a des oppositions.
Bien sûr. Mais cette distinction, elle est très ancienne, hein, entre touristes et voyageurs. Bon, alors il faut un peu. Je vais être d'accord avec personne à la fin, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que le problème, c'est que le voyageur, il a toujours super bonne presse. Hein, c'est l'aventurier, c'est l'explorateur, c'est le mec génial. Voilà. C'est exactement ça. Ouais. Non, mais je vous réponds après, parce que c'est justement intéressant à ce niveau-là, tout à fait. Et donc ça c'est un peu l'image qu'on a voilà dans notre culture dans notre inconscient collectif. Après le touriste c'est toujours le type qui serait un peu con, il serait un peu mouton et tout ça. Et je pense que moi je suis pas non plus d'accord avec ça parce qu'il y a des voyageurs qui voyagent comme des crétins, il y a des touristes y compris les touristes qui vont aller au Club Med. Ben moi un touriste qui va au Club Med et qui assume pourquoi il y va là-bas, parce qu'il y va pourquoi on va au Club Med, on y va pour se reposer, faire du sport ou pour draguer. Ben je veux dire voilà, quelque part, un type qui va au Club Med pour faire ça, non mais c'est un peu schématique, je sais bien, mais c'est quand même... Ben, quelque part, il fait beaucoup moins de dégâts que le type tout seul que moi, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le tourisme sexuel en Asie, et je veux dire, les types qui vont tout seuls dans les bars à Bangkok, c'est pas des touristes organisés souvent. Hein. Donc c'est pour ça aussi, on est aussi parfois dans des choses... Non, je termine. C'est que, ce que je veux juste dire par là, c'est que s'il faut se méfier juste simplement du cliché comme quoi le voyageur sera un mec voilà, super génial et le touriste un crétin quoi, qui voyage, un mouton. Quoi. Je pense simplement qu'il y a de la place pour tout le monde, comme disait madame tout à l'heure. Hein. Il y a de la place pour tout le monde, il faut de tout à tout le monde. Mais évidemment, moi, si vous me demandez moi perso, je veux dire, moi perso, hein, je veux dire, j'ai été guide dans plein, j'ai créé plein de circuits. Bon, moi, peut-être parce que je suis un mec, mais ça ne m'aiderait pas l'idée de partir pour voyageur organisé. Mais non, par contre, je respecte forcément ça. Je respecte fortement ça, d'accord. Mais moi, si je voulais, je vous rejoins complètement dans ça. Si je commence à parler de ma petite personne, c'est qu'évidemment que moi, je préfère le sens du voyage avec tout ce qu'il y a au niveau du mythe de la route et de la liberté et tout ce qu'on va chercher, quoi. Ok. Hein, mais je veux dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est détestable, bien sûr. Mais ce qui est problématique, vous le savez bien, c'est que quand vous allez quelque part, le touriste, c'est toujours l'autre. Hein. Vous savez très bien, n'importe où vous allez, vous avez, ah là-bas, vous avez vu, il y a des touristes, hein. Je sais pas, même quand vous êtes guide, ah là-bas, il y a des touristes, on n'y va pas. Mais le problème, je regarde, genre, mais bon, on est quoi, nous? On est touristes aussi, quoi. Donc, on est aussi toujours dans cette logique-là, hein. Donc, il y a une question, peut-être,
Je ne pense pas être une grande voyageuse, mais si on considère que le voyage, c'est la rencontre, je pense avoir fait de beaux voyages quand même. Je voudrais vous poser une question toute simple. Je voudrais savoir si vous aimez votre métier.
Le métier de quoi? De guide? Ou de... Parce que je ne suis pas guide. Hein.
J'ai cru comprendre.
Guide, c'est ce que je fais à côté.
Je suis anthropologue. Oui,
Et j'étudie l'impact du tourisme dans les pays du tiers-monde.
Vous aimez ce que vous faites?
J'adore, ouais.
Pourquoi?
Parce que je respecte beaucoup les gens.
C'est pas ce que j'ai entendu ce soir.
Ben oui, mais parce que simplement vous comprenez pas le sens critique de ce que j'essaie de donner, quoi. C'est ça, c'est fondamental. C'est fondamental. C'est ça la chose qui est importante. C'est que il faut garder la capacité critique quand on parle de tourisme. Le tourisme aujourd'hui, c'est devenu malheureusement quelque chose qui est extrêmement, instrumentalisé hein, par plein de gens. Et je veux dire, il faut arrêter un petit peu de dire que le tourisme, c'est toujours génial, génial. Il faut aussi voir la réalité en face, quoi. Hein, je veux dire, c'est...
Oui. Moi, je suis complètement d'accord avec vous, parce que souvent, quand j'entends... Moi, je ne voyage pas parce que je suis seule. Donc, soit je trouve un compagnon, et je n'ai pas tellement de sous, parce que quand même, voyager, ça participe d'une certaine classe sociale.
Hein, tout à fait.
Peut-être que tout le monde a les moyens ici. Mais moi, je connais plein de gens qui ne peuvent absolument pas voyager, qui ont un désir fort. et aussi en tant que femme, parce que effectivement, c'est assez difficile. Moi, j'aimerais bien partir seule. J'ai un peu de mal et bon, pourquoi ? Parce que tout au long de ma vie, moi, j'ai fait la route, mais professionnelle, et j'ai toujours été emmerdée. Hein. Vous allez dans un bar, on vous regarde. Vous rentrez dans un hôtel, on vous regarde. Il y a quand même des réalités féminines. Alors, autre chose, c'est que est-ce que bon, le voyage, je suis d'accord, mais moi, ce que je partage avec vous, c'est la mentalité des Français, parce que il n'y a pas besoin d'aller très loin. Même quand ils montent à Paris, ça peut arriver. C'est-à-dire que suivant leur porte-monnaie, ce qu'ils ont dans le porte-monnaie, très vite, ça dérape. Et effectivement, ils ont une attente de... Il y a quand même un fond colonial au fond, et puis oui, je le dis quand même, et on arrive un peu en terrain conquis. Moi, je l'ai vu vraiment souvent faire à Paris, je l'ai vu faire même dans la France profonde. Et moi, je cherche une solution en tant que femme, parce que quand on voit tous les bouquins qui sont publiés actuellement sur la mer, c'est quand même des récits masculins. Bon, il y a très peu.
Alors, oui.
Très peu de littérature, il y a très peu de voyages. Donc voilà, moi je suis un petit peu.
Pour ce que vous dites sur les Français, c'est important quand même. Je partage ce que vous dites, mais il ne faut pas généraliser. Hein,
je généralise. Bah,
c'est très important. Hein. J'ai travaillé pendant 10 ans à Sulawesi, en Pays Toraja, okay, où j'ai habité longtemps. Et les Français, c'est ceux qui se comportent le mieux. Donc, d'accord, je peux aussi vous dire des trucs comme ça, quoi. Hein, on peut y aller, hein, si vous voulez. Mais simplement, c'est pour ça qu'il ne faut jamais généraliser. Même si c'est important, quoi. Hein, donc, au niveau... Voilà. Non, mais, et donc, juste pour vous répondre par rapport aux femmes... Attends, je vais juste les répondre. Effectivement, ce qui est important, c'est que le tourisme, c'est quand même une activité à la base, hein, à l'origine. Hein. Rappelez-vous... au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, bon, si vous voulez, c'est une activité, on va dire, ludique, aristocratique, notamment pour apprendre à vivre, hein, le grand tour et tout ça, vous rappelez peut-être, les étudiants, d'une certaine manière. C'était un peu les ancêtres de Erasmus, hein, aujourd'hui, hein, si vous voulez, c'est un peu du même ordre, hein, d'ailleurs. Hein. Et donc, c'est apprendre par le voyage. Hein. C'est très, effectivement, aristocratique, et c'était réservé à une certaine élite. Et les congés payés de 36, et ce qu'il y a eu après, si vous voulez, dans les années 50, il y a eu le tourisme social, qui aujourd'hui est quasiment mort. Très important, hein, parce que l'évolution du monde a changé. Je vous ai parlé tout à l'heure un petit peu. Hein. Hein, le tourisme social, à l'époque, c'était géré par les partis communistes, etc. Hein, bon. Et je veux dire, aujourd'hui, tout ça, il n'y a plus grand-chose. Hein. Le tourisme social, ça ne marche plus très bien. Il y a encore des choses qui existent, mais ça ne marche plus très, très bien. Donc, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une logique qui a changé. Enfin, je ne veux pas rentrer trop dans les détails là-dessus. Mais ce qui est important, c'est que pour les femmes, pour vous répondre, c'est qu'effectivement, il y a de tout pour tout le monde. Voilà, c'est juste ça que je veux dire. Donc, je veux dire, vous trouverez quelque chose qui peut vous convenir. Ça, j'en suis sûr. D'accord ? Et surtout, il n'y a pas à dénigrer quelque chose. C'est ça qui est important. C'est qu'il y a, enfin, je veux dire, tout ça, je répète une fois de plus. Hein. Moi, j'ai vu des gens qui étaient à Fès, à Barzazat, au Club Med. Bah, c'était, voilà, il y a des gens très bien. Faut arrêter de critiquer les touristes quand ils font le tourisme de masse. Parfois, c'est très bien. C'est bizarre ce que je vous dis. Hein. C'est un peu, mais c'est important. Il faut de tout. Il faut de tout, sinon vous faites n'importe quoi. Tout le monde ne peut pas voyager comme Nicolas Bouvier. C'est important à comprendre, quoi. Et comme vous le dites, une fois plus, voilà, parce que c'est important, c'est surtout les hommes. Et après, il y a tout un débat là-dessus. Maintenant, cela dit, je vous embête un peu, il y a quand même de plus en plus de femmes qui maintenant, alors c'est un peu dans les, c'est un peu à la mode aussi, hein, des aventurières. Il y a un bouquin qui s'appelle Les aventurières en crinoline, par exemple, qui montre aussi l'histoire de, pour exemple, qui montre l'histoire des premières, Isabelle Ebrard, Alexandre David Neal, enfin, tout ça, vous connaissez. Mais ça, c'est autre chose un peu. Mais c'est pour montrer qu'il y a une, bien sûr. Mais donc, il faut comprendre qu'il y a, une fois plus, c'est un phénomène complexe. Il faut pas caricaturer. C'est ça qui est très important.
Moi, pour répondre à madame, je l'invite à venir à Châtain, en Morvan. Il n'y a pas beaucoup d'hommes. Il n'y a plus de bars. Le camping est bon marché. Avec un peu de chance, même, elle peut camper sans qu'on se rende compte et sans payer. Mais il est possible que je la regarde passer quand même. parce que je suis souvent dans la rue. Alors, vous voyez, si vous me voyez.
Mais si vous voulez, si je peux me permettre juste de rajouter quelque chose, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a un phénomène aussi qu'on peut voir en France, par exemple aujourd'hui.
Enfin, pardon, en France. Et je connais quelqu'un pour l'accompagner. Quelqu'un qui a de l'argent, qui pourra payer le camping. J'ai oublié.
Ben, je suis content de vous entendre dire ça, parce que d'une certaine manière, aujourd'hui, vous avez, en Europe, si vous voulez, hein, dans les pays industrialisés, pour aller vite, on a de plus en plus, quand même, on va dire, avec l'obsession quand même de la sécurité, de ce qu'on connaît aujourd'hui, hein, ça devient très difficile, par exemple, de faire du camping sauvage. Hein. Je prends un exemple que tout le monde connaît, quoi. Hein. Rappelez-vous, certains, peut-être il y a 20, 30 ans, je sais pas, hein, 40 ans, je sais pas, hein, vous rappelez déjà il y a quelques années, ben, on pouvait faire des. Voilà, c'était tranquille. Maintenant, ça devient très difficile. Le garde champêtre ou le flic, n'importe qui va vous virer. C'est comme ça. Je veux dire, donc il y a plein d'exemples qu'on peut vous donner comme ça, où on voit que tout est régulé. Hein. Ça, c'est un peu le côté aussi, tout simplement, de le paysage devient l'aménagement du territoire, c'est ça un peu. Hein. Donc, d'une certaine manière, le tourisme aussi. Et à sa part de responsabilité dans cette histoire-là. Et ça, c'est très important parce que ça devient difficile de circuler librement. Hein. Pas seulement pour les immigrés clandestins ou pour les sans-papiers, mais même pour vous, si vous voulez faire une petite balade, vous êtes traqué. Quoi. Moi, je connais des gens qui font des voyages en montgolfière, par exemple. Ben, je veux dire, il y a 20 ans, c'était sympa. Vous pouvez aller se déposer sur des trucs. Moi, j'étais avec lui un peu. Maintenant, c'est plus possible. Tout est régulé au niveau du droit, des décrets. Il n'a plus le droit de rien, plus le droit de survoler là, plus. À un moment donné, j'étais avec lui, il y a les flics qui nous attendent en bas. Oui, un riverain nous a dit que c'est dangereux. Bon, c'est ça le problème aujourd'hui. C'est que comment circuler librement quand on est traqué, d'une certaine manière, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Hein, voilà, ça, je pense que c'est quelque chose qui est important aujourd'hui de comprendre. Mais c'est la même chose, une fois plus. Après, je ne dis pas que c'est bien, mais vous avez. Voilà, enfin, comment je suis à moto à Bali, je suis à 5 sur la moto, on n'a pas de casque, c'est pas bien. Mais c'est comme ça, je veux dire. Okay. Aujourd'hui, maintenant, mais bientôt avec les motos, on va vous demander de mettre le truc jaune, quoi, comme pour les bagnoles. Quoi. Je veux dire, on arrive bientôt dans une sorte de vie où vous êtes fiché, fliqué, voilà, filmé, je ne sais pas où ça va s'arrêter. C'est important parce que ça participe aussi à ce besoin d'évasion. Parce que les gens, quand ils vont au bout du monde, ils recherchent justement autre chose. Hein. Ce qu'ils recherchent de plus en plus, c'est vraiment l'illusion, je dirais, d'un autre réel, quoi. Donc, c'est important de comprendre ça.
Oui, bonsoir. Ça. vous parlez de voyager autrement. Alors, moi, j'ai l'exemple de ma fille, qui est une grande baroudeuse et qui voyage vraiment toute seule ou avec son amie et qui a fait 3 fois la Chine, dont une fois toute seule avec le sac à dos. Donc, elle part comme ça sur la route. Elle emprunte les moyens de transport qu'elle peut trouver. Elle habite chez l'habitant, elle va chez l'habitant, ouais. Elle loge chez l'habitant et elle fait des rencontres extraordinaires. Donc elle a fait aussi le Vietnam. Par contre, elle fuit tous les endroits touristiques, absolument tous les endroits touristiques, parce que bah, elle n'est pas d'accord avec effectivement le tourisme de masse, quoi. Et voilà.
Bah, ça participe à mon avis à sa formation personnelle. Hein. Pour après, tout simplement, voilà, et c'est un cheminement personnel, le voyage. Le voyage, c'est quelque chose qui vous forme en permanence, quoi. Hein, en plus, comme je disais toujours comme phrase, le voyage commence là où s'arrêtent nos certitudes. Hein. Donc, d'une certaine manière, le voyage, c'est quelque chose qui nous remet, qui nous forge, hein, qui nous forge, et on revient jamais indemne d'un voyage. Vous revenez jamais pareil, quoi. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et elle, justement, ben, l'exemple que vous me donnez, ben, elle fait son cheminement, et je suis sûr que quand vous la voyez après 6 mois ou après, quand elle revient de voyage, elle a changé. Quelque chose, il y a quelque chose en plus.
Elle ne comprend plus très bien, même.
Voilà, donc après, ce qui est compliqué à gérer pour les anthropologues, en tout cas, peut-être pas pour les voyagistes, mais pour les anthropologues, c'est le fait d'arriver à gérer les doubles et triples cultures, les choses comme ça. Quoi. Après, les problèmes qu'on peut avoir de type liés à l'interculturalité, enfin, bon, des choses comme ça. Ouais. Effectivement, c'est peut-être des choses qui peuvent arriver. Après, il faut se méfier aussi. Je dis ça, hein. Ouais. Comme je critique tout le monde, je critique aussi. Je veux dire, il faut aussi se méfier après du côté un peu. Un rousseauiste, hein, dans le genre, mais aussi, je dirais, simplement dans le genre, parce que je connais des gens qui sont partis, par exemple, quelque chose que j'aime pas trop, bah, les gens qui partent, ils disent, j'en ai marre de la France, c'est pas bien, par exemple, je vais voyager, et après, ils sont 2 ans, je sais pas, en Asie, oh, là-bas, tout est super, chez nous, tout est mauvais, ça, c'est n'importe quoi. Hein. Genre, c'est qu'il faut faire attention au discours manichéen de type anti-touristique, hein, parce que c'est très à la mode de critiquer les touristes. Et moi, je trouve, quelque part, c'est trop facile. Hein, parce que, je veux dire, on est tous, une fois plus, touristes à un moment donné. Je veux dire, Voilà. Moi, je critique beaucoup mes collègues anthropologues, parce que les anthropologues se prennent toujours pour des universitaires extrêmement sérieux, quoi. Donc, ce qui est terrible, c'est que je leur dis que si vous travaillez sur le tourisme, déjà, pour commencer, vous êtes aussi touriste. Alors, ils disent non, c'est la science. Mais non, quand vous allez quelque part pour la première fois, vous êtes touriste. Que vous soyez anthropologue ou, je sais pas moi, ou balayeur, c'est pareil, hein, je veux dire. Et donc, il faut un peu respecter, parce que quelque part, c'est ça aussi. Si vous respectez les gens qui vous accueillent, ou les touristes que vous pouvez emmener, il faut avoir de l'humilité, de la modestie et de la curiosité saine, quoi. Hein. Et sinon, ça ne peut pas marcher, quoi. Ça, c'est pour moi le premier point qui est important, c'est d'être simplement un peu capable de se remettre en cause à chaque instant, quoi. Hein. Ça me paraît fondamental.
En plus, elle étudie aussi un petit peu la culture dans les pays où elle va. Elle a travaillé un an en Chine et maintenant elle est au Vietnam, elle est à Ho Chi Minh. Hein. Et je suis allée en Chine quand elle y était, donc elle m'a fait vraiment découvrir la Chine et Pékin comme je n'aurais pas découvert.
Ouais, bien sûr. Mais après, vous voyez là, c'est ce qui est bien dans le voyage, c'est les coups de cœur en fait. Elle, par exemple, quand je vois comment vous en parlez, c'est qu'on voit que là, c'est un coup de cœur. Votre fille a eu un coup de cœur avec un continent, une région, un pays, etc. Et c'est ça qui est important. Le voyage, c'est une histoire de coup de cœur. C'est une histoire de passion, c'est une histoire de bonheur, quoi. Hein. C'est que qu'est-ce qui me choque quand je vois les gens qui viennent chez moi à Bali quand j'habite, c'est qu'ils me disent ici, les gens savent rire. Chez nous, on fait la gueule, quoi. C'est le premier truc souvent qu'ils me disent parce que ça, ils ont l'impression. Alors c'est là que ça recommence. Ah ici, ils sont tous joyeux, c'est super cool. Et chez nous, ils font tous. Alors je dis non, c'est plus compliqué que ça. C'est que chez nous, c'est pas la même culture, c'est pas pareil. Il faut arrêter d'être dans les clichés. Vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vrai que c'est très choquant pour quelqu'un que vous emmenez dans certains endroits. Enfin, de voir comment ils vont voir d'un seul coup des gens qui fonctionnent différemment, quoi. Et donc, c'est toujours un coup de... La passion est fondamentale, hein, dans le voyage. La passion et cette quête du bonheur, je crois, hein, tout simplement. La quête du bonheur qui est toujours présente aussi. Mais il faut surtout se méfier simplement de ses émotions. Hein. C'est bien de se laisser aller ses émotions. Mais il ne faut pas en tirer des conclusions, quoi. Ça me paraît fondamental, quoi. C'est un petit peu le côté... C'est pour ça que parfois, des gens, quand ils reviennent... Moi, j'ai vu des gens qui sont devenus très racistes envers les Français. Ce qui est très, très mauvais. Pardon. D'accord ? Vous pourriez expliquer. C'est comme parce qu'ils disent « Oh là là, là-bas, c'est super. Ici, vous n'avez rien compris. » C'est pas bien. C'est pas vrai. Parce qu'il y a des choses... je travaille sur l'éducation à Bali, dans les écoles. Il y a plein de problèmes là-bas et c'est vachement mieux ici pour beaucoup de choses. Mais ça ne m'empêche pas d'être critique pour ce que je vois ici. Hein, il faut toujours garder, je crois, une certaine retenue. Sinon on est de nouveau manichéen, hein, comme George W. Bush, puisque je parlais tout à l'heure. Hein, donc ça va de nouveau être binaire. Il faut sortir de la vision binaire, bien et mal, quoi. Mais aussi, c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus de solution à des réponses. Il n'y a que de nouveaux questionnements. C'est ça qui est important. Il n'y a pas de solution. Hein.
Est-ce que... Ça marche ? Ah, voilà. Moi, je voulais me poser une question. C'est très rare que j'intervienne en tant que modeste voyageur. Parce que derrière le mot voyage, par exemple, un réfugié, est-ce que c'est quelqu'un qui voyage ? Un militaire qui est rentrant de campagne en Afrique ou en Afghanistan et rentrant disant « Oui, je suis rentré dans l'armée parce que ça fait voyager ». Et donc, parce que là, on a l'impression qu'on a... C'est un petit peu ce que vous disiez peut-être tout à l'heure. On a l'impression qu'on a vu derrière le voyage... On a lié voyage à tourisme alors que voyage... Si je me souviens bien, Nicolas Bouvier le définit de cette façon-là, quelque part, dans un de ses bouquins. Il dit que le véritable voyage, c'est quand on ne sait pas quand on va rentrer.
Bien sûr.
Donc, là, le tourisme, ça l'élimine quand même pas mal, quoi. C'est-à-dire que qui a déjà voyagé en partant sans savoir quand il allait rentrer, quoi. Et c'est le cas quelquefois. Moi, je trouve que les réfugiés, par exemple, ils voyagent plus, quoi, parce qu'ils ne savent pas quand ils vont rentrer, s'ils rentrent un jour.
Bien sûr, mais c'est vrai que, pour reprendre Nicolas Bouvier, qui dit des choses intéressantes, ce garçon, c'est que Nicolas Bouvier dit quand même aussi, justement, que le voyage, il vous fait, mais surtout, il vous défait. Et c'est dans le dépouillement que vous vous retrouvez, quoi. Donc, c'est très important. Hein, c'est seulement en se dépouillant quelque chose qu'on arrive, d'un seul coup, à voir l'importance des choses essentielles. Parce que notre problème de la société occidentale, c'est qu'elle est très intéressée par l'urgence. Mais pas forcément parce qu'il est essentiel. Hein. Parce que l'urgent, c'est pas ce qui est essentiel, contrairement à ce qu'on pourrait croire, quoi. C'est pour ça que l'exemple du tourisme humanitaire, hein, puisque c'est un peu notre version du militaire ou d'autres choses, c'est que soit on fait du tourisme, soit on fait de l'humanitaire. Genre, hein, pourquoi on est obligé de donner bonne conscience ? Ça, c'est complètement judéo-chrétien à nouveau. Hein. Il faut absolument que vous donniez bonne conscience. Pourquoi on va au bout du monde alors que les autres, ils restent à la maison, hein. Donc, d'une certaine manière, souvent, chez beaucoup de gens, c'est un vrai problème. C'est que c'est qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien. Ben, où est le problème d'aller voyager? Essayez, faites un test autour de vous. Vous dites, ah, tu pars là-bas, d'accord. Donc, c'est soit les vacances, soit il y a une raison vraiment officielle pourquoi on part, on travaille, etc. Mais si on dit, ah non, j'y vais pour rien. Qu'est-ce que t'as fait? Rien. Enfin, je me suis baladé. Mais t'as pas fait un... C'est-à-dire, les gens vont toujours vous trouver, à la fin, ils vont s'engueuler, quoi. Ils vont dire, mais quand même, toi, t'as rien à faire, t'as du temps à perdre, t'as trop de fric, enfin, des choses comme ça, vous voyez. Pas simplement, c'est l'oisiveté, si vous voulez, volontaire. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, a du mal à passer dans notre société. Travailler pour gagner plus, vous avez entendu parler. Donc, voilà. Donc, c'est ça aussi. On est quand même dans une logique qui est celle, quand même, beaucoup plus. Je suis désolé, mais c'est ça, quoi. La preuve, c'est que vous avez peut-être remarqué que, et pas seulement les voyagistes, c'est aussi même dans le tourisme individuel. C'est que, de plus en plus, les gens voyagent comme ils travaillent. C'est-à-dire que l'agenda, si vous voulez, fonctionne de la même manière. C'est que, de certaines manières, si vous voulez, le culte du travail s'est transformé, s'est transféré, si on veut dire, dans nos loisirs, dans nos manières de gérer les vacances. Et les gens, en fait, simplement, ils veulent rentabiliser. C'est horrible, ce mot. C'est rentabiliser leurs vacances. Donc, jour 1, jour 2, jour 3. Et le problème, c'est que ça crée un certain nombre de frustrations. Et donc, dès qu'ils... Donc maintenant, vous avez des gens qui, comme vous, enfin peut-être pas pour vous, mais pour des voyagistes plus genre frappe, je sais pas, ben, il y a des gens qui vont porter plainte parce qu'on leur a promis 4 jours de soleil, il y en a seulement eu 3. Voilà, vous avez des choses comme ça qui existent aujourd'hui. Voilà, et donc on arrive à des aberrations, et de plus en plus, vous le savez peut-être, il y a l'évolution de la clientèle qui est importante, qui est intéressante, c'est que la clientèle a beaucoup évolué ces dernières années, comment ils fonctionnent, quoi. Mais je ne veux pas entrer là-dedans, mais c'est important de voir que si on est dans un mode marchand de comme ça, ben, le reste va avec, quoi.
Et c'est, il y a quelqu'un peut-être. Je voulais rajouter. Attends, Laurent, je te passe le micro. Je voudrais prendre un exemple. Si par exemple, je prends ma valise à roulette, je ferme la porte de ma maison et que je vais m'installer dans mon jardin pendant un mois. Est-ce que j'ai des chances d'avoir fait un bon voyage?
Justement, bien sûr, bien sûr, bah bien sûr. Moi, par exemple, ce que je dis souvent, c'est que plutôt que d'aller en Mongolie, ça coûte très cher. Par exemple, c'est peut-être pas forcément pour vous, madame, mais c'est pour eux. Non, mais je veux dire, au niveau, ce qui est vraiment intéressant, c'est par rapport au tourisme de proximité, une autre version qui est intéressante. Je dis ça au niveau... Parce qu'il y a des gens qui me disent, nous, on aimerait bien... Bon, c'est vrai que ça devient vachement difficile d'aller en Mongolie et faire un trekking ou d'aller au canal du Rio. Alors, je veux dire... Il y a des gens maintenant, ils ont des yourtes, je sais pas, en Ardèche et dans les Pyrénées, etc. Vous mettez votre yourte dans le jardin et vous organisez un carnaval de Rio dans votre yourte mongole dans le jardin et vous invitez tous les voisins. Je suis vachement sérieux en fait. Et vous invitez les voisins. Alors non seulement vous recréez du lien social avec tout l'environnement, et c'est très bien. Et ce qui est vraiment super, c'est qu'en même temps vous luttez d'une certaine manière, vous luttez pour faire des choses intelligentes au sein du village. Et vous luttez en même temps, je dirais même, voilà, vous luttez même contre le racisme. Ce serait quand même bien que, par exemple, l'exemple quand même connu, c'est je sais pas, c'est Le Pen qui va souvent à Djerba parce qu'il aime bien les Arabes chez eux. Mais l'épicé du coin, il va pas le voir, quoi. Je veux dire, d'une certaine manière, c'est ça, c'est retrouver tout simplement les convivialités, les sociabilités qui sont près de chez nous, quoi. Je veux dire, et là, il y a du boulot, quoi. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de boulot qui reste à faire. Et je pense que quelque chose qui est intéressant, une autre solution, quelqu'un m'a parlé des pistes, c'était vous, je crois, pour les petites pistes qu'il pourrait y avoir. Il y a une piste aujourd'hui qui est quand même assez intéressante, qui est très très peu étudiée en France, c'est le rôle des migrants, des populations migrantes, des immigrés si vous voulez aussi, qui sont simplement des gens qui sont des passeurs culturels. Ce sont des gens qui sont souvent deux, par exemple, je pense à les Turcs qui sont installés par exemple en France depuis 30 ans. Je veux dire, ces gens-là sont des super passeurs, des intermédiaires pour des choses du monde du tourisme, que ce soit comme guide, pas seulement comme guide, comme des intermédiaires absolument fabuleux. Dans un sens comme dans l'autre, pour les populations turques qui voudraient venir en France, comme pour les Français qui voudraient aller en Turquie. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est tous ces immigrés-là auxquels on ne pense jamais. Je pense qu'il y aurait énormément de choses à faire avec eux pour les inclure tout simplement dans un processus de développement touristique. Enfin bon, c'est un exemple, c'est juste un exemple, mais il y aurait plein de choses à faire, quoi. Après, pour terminer sur ce que je disais sur le réfugié, après, c'est sûr que là, il y a beaucoup de choses, j'ai pas mal bossé là-dessus, mais c'est vrai que vous avez le VRP, par exemple, et le SDF, ils se rencontrent dans une rame de RER, mais ils ne se parlent pas beaucoup, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de choses en commun. Ouais, je veux dire. Et y en a un, comme par hasard, qui va très vite et un qui va très lentement. Et c'est intéressant de voir que celui qui va très vite, il fantasme sur la lenteur de l'autre, parce que la lenteur, c'est le luxe le plus précieux dans les temps qui vont courir. Donc c'est intéressant. Donc, aujourd'hui, vous avez je sais pas, le train, par exemple, qui est plus cher pour aller de Bangkok à Singapour, c'est le train qui va plus lentement. Parce que c'est ça qui est compliqué. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que la lenteur devient quelque chose devient la plus-value dans matière de tourisme. Et donc, ça, c'est intéressant. C'est, on est aussi dans des... C'est là où les pistes pour demain vont se jouer, quoi. Hein, je veux dire. Éloge de la lenteur, ça vous dit quelque chose, ça, de Sanso. Hein. Vous avez aussi Éloge de la marche, le Breton, dans le même esprit. Donc, tout ça, c'est des livres très intéressants. Il y a plein de choses à glaner, quoi.
Moi, vous avez dit que vous étudiez l'impact du tourisme sur les populations. Et justement, j'aimerais savoir quel impact a sur un village Hmong au Vietnam quand il voit débarquer un groupe de touristes.
Ben, je vais donner une réponse un peu... C'est que tout dépend. Il peut avoir un impact très positif, ça arrive. Il peut avoir un impact très négatif. Donc déjà, il n'y a pas de réponse toute faite, d'accord ? Première réponse. Donc la réponse, je prends l'exemple. Moi, un village que je connais, à partir du moment où le guide, il resserre bien les boulons, si vous voulez, hein, il fait très attention à ce qu'il fait. Il ramène des gens seulement s'il y a, voilà, si au niveau de l'éthique, ça se passe bien, s'il peut contrôler, s'il est avec un guide sympa, un guide local aussi, s'il connaît le village, etc. Il connaît le chef du village, par exemple. Hein. Donc si on a un minimum, une bonne connaissance du terrain, on peut déjà faire des choses concrètes. Moi, par exemple, j'organise un match de foot. Hein. À l'époque, quand la France elle a gagné la Coupe du Monde, on s'est dit, m'excuse de parler de ça, mais je veux dire, tout le monde connaissait Zidane, et voilà, c'est comme ça, quoi. Donc, dans un village Hmong, parce que je parle vietnamien un peu, mais je parle pas Hmong, quoi. Je veux dire, je discute avec les gens, et ben, c'est très intéressant ce qui peut se passer par le sport. Le sport, c'est un très bon vecteur de rencontre avec les populations. Exactement comme la musique, la danse, tous les arts et la cuisine. C'est les seuls vecteurs qui sont fondamentaux pour essayer d'avoir des relations avec des gens dont on ne partage pas à la base la culture, quoi. Donc c'est très important de voir ces vecteurs-là, parce que c'est là que ça se passe, c'est là qu'il y a la rencontre, hein, la rencontre dont on te parlait qui est importante, c'est par ce biais-là qu'elle se passe. Et là, à un moment donné, on a fait un match de foot, et j'ai organisé un match avec les Hmong, donc c'est très intéressant, parce qu'à un moment donné, il y en a un qui était un peu chauve dans l'équipe, c'était Barthès, quoi, et donc on l'a mis dans les buts, quoi. Et à un moment donné, il y a un type, tout le monde connaissait Barthès, et Laurent Blanc, et Zidane, quoi. Et le type, il donne une bise sur le front à tout le village, enfin pas tout le village, mais les 20 personnes qu'il y avait dans le village, ouais, c'est Laurent Blanc, et ils ont vu la Coupe du Monde. Tout le monde a vu ces images-là. Et les gens marchaient pendant 5 heures dans un village thaï, ils descendaient du village Hmong dans le village thaï pour voir le match de foot à 4 heures du matin. Donc c'est tout fou, c'est ça. Ce qui se passe aujourd'hui sur la planète, c'est ça. C'est cette mondialisation, je vous dis, qui est très importante, c'est ça. Après, vous avez les impacts, ils peuvent être. Là, un exemple pour moi, mais très modestement, ça c'est peut-être un impact assez sympa parce qu'ils en gardent mon souvenir et il n'y avait pas eu de dégâts, je pense, pas trop de dégâts, quoi. Mais non, après, c'est très difficile d'évaluer. Il faut être humble moi-même. Hein. Je pense qu'il faut toujours être... Parce qu'on ne sait jamais exactement ce qui va se passer. Hein.
Voilà, donc c'est ça que je voulais vous poser comme question. Apparemment, après, vous retournez dans les
différents villages. Bien sûr, ouais. Ouais, c'est ce que... Voilà.
Donc, ce qui est intéressant de ça connaître, c'est quand on revient. Leurs sensations,
bien sûr.
Ce qu'ils vous disent après de leur rencontre avec les Occidentaux.
Il y a des villageois, il y a des villageois qui s'y retrouvent parce que simplement, ça se passe bien. Ça se passe bien, voilà. Donc, ça veut dire que tout le monde s'y retrouve. Il y a des villages, le village dont je vous ai parlé avant, rapidement, ils m'ont dit, écoute, nous, on t'aime bien, tu peux venir quand tu veux, mais s'il te plaît, ramène pas. Alors je dis, voilà, il n'y a pas de problème, j'ai plus ramené de gens, c'est tout. Mais parfois, il faut s'adapter, quoi. Faut gérer la situation au compte-gouttes, à la situation réelle, quoi. Oui ?
Vous parlez de votre expérience dans le pays Hmong au Nord-Vietnam. Moi, j'ai eu une expérience un petit peu plus pathétique. Je me trouvais dans la ville de Sapa, qui est à la frontière avec la Chine. Et c'est une région où il y a énormément de Hmong, et notamment qui descendent dans cette ville pour le marché, etc. Et à l'époque, il y avait encore, je ne sais pas si ça existe, il y a une quinzaine d'années, les hommes venaient rencontrer leurs femmes. On disait les acheter, mais ils venaient les rencontrer. Et je me suis trouvée, nous sommes restés 3-4 jours dans ce village, nous étions 5, et notre fils avait 13 ans, à peu près 12-13 ans quand on était à ce moment-là. Et tous les jours, nous avons une mère Hmong qui est venue nous donner sa fille pour l'emmène pour la marier avec notre fils. Et j'ai trouvé cette assez...
Ouais. Pour compléter ce que vous dites, parce que j'étais à Sapa il y a quelques semaines, là, donc au niveau... je vois qu'à Sapa aujourd'hui, le marché de l'amour, hein, ça s'appelait comme ça, ce marché-là où les minorités descendent, c'est devenu un gros... ça a été instrumentalisé par des tour opérateurs hein, locaux, chinois... et aussi étrangers, mais aussi surtout vietnamiens, d'accord, qui simplement ont instrumentalisé ça. Les Viet ne respectant pas beaucoup les Hmong pour plein de raisons, tout ça. Et donc après, ce qui se passe, maintenant il y a plein de problèmes. Hein. Donc il y a plein de soucis de ce genre-là, mais aussi qui sont répandus. Mais vous avez aussi des soucis, par exemple, comme j'étais là-bas il y a 3 semaines, là, dans le genre, je vois très bien comment rencontrer une fille mongue qui était, donc ça c'est intéressant comme exemple pour montrer un peu dans quels enjeux on est aujourd'hui. Ben, elle était 3h de l'après-midi, elle était dans un cybercafé sur Internet, donc une fille mongue, hein, d'accord. Elle était sur cybercafé en train de chatter avec un type aux États-Unis, en américain, super accent américain, très bien, très bon anglais. Et elle avait la jupe mongue et tout ça, hein, d'accord. Et c'est 3h de l'après-midi, je lui demande, mais qu'est-ce que tu fais? Elle parlait très très mal vietnamien, hein, parce que donc ça veut dire qu'elle parlait bien anglais et mongue, donc ça veut dire la langue nationale, si vous voulez, elle ne parlait pas bien simplement parce qu'elle n'allait pas à l'école. Parce que comme elle avait des jolies jupes, elle disait, la journée, elle est là parce qu'il faut qu'elle vende des trucs aux touristes. Et ses parents, voilà, elle aide ses parents comme ça, elle vend des trucs aux touristes. Et le soir, quand elle est partie à 4h30, elle a remis son jean et elle a vu son petit copain, un mongue. C'est ça, et c'est un drôle de monde, quoi. Je veux dire, c'est juste ça. Bien sûr, non, non, ouais, mais ça a changé, ça que je veux dire, ça a changé. Voilà. Ça a changé. Récemment, il y a vraiment des problèmes. Il y a des gros problèmes en ce moment. Voilà. Mais c'est vrai que, non, mais je comprends très bien parce que c'était. Je vois bien, hein, parce que je vois bien. Mais j'ai vu l'évolution, en fait. Le problème, c'est que j'ai vu l'évolution d'année en année et c'est rude un peu. Hein, voilà. Mais une fois plus, je ne dis pas que c'est la faute du tourisme. Le tourisme aussi responsable, mais c'est un des responsables. Hein, c'est un ensemble de choses. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Je ne veux pas me faire mal comprendre, hein, c'est ça qui est important.
Je sais pas, est-ce qu'il y a encore des... Non ? Oui ? Oui ? Non ? Non ? Bon, j'ai vu le bras se lever, mais c'est comment ton prénom ? Nathalie qui a attrapé un verre. Alors.
Je peux avoir un verre, moi ?
Et Doudoune, ouais, c'est Doudoune. Voilà. Donc, on va, je sais pas s'il y a... On va peut-être clore si... Il n'y a pas autre chose à rajouter. Je vais faire mon Bernard Pivot, là, bien que Pivot soit en retraite depuis un moment. Donc, il y a quelques ouvrages écrits par Franck Michel, Voyage au bout de la route, essai de socio-anthropologie. C'est aux éditions L'Aube. Vous avez Franck Michel, Voyage au bout du sexe, trafic et tourisme sexuel en Asie et ailleurs, chez Pull. Voilà, et puis une excellente revue, hein, d'après, moi je ne l'ai pas lu, mais d'après ce que tu m'as dit, une excellente revue, Culture et Société, Sciences de l'Homme, dossier coordonné par Franck Michel et Jean-Marie Faure, et qui a pour titre Tourisme. Voilà, donc c'est les trois ouvrages.
Si je peux me permettre, juste pour ajouter, c'est que là vous avez un ouvrage qui est plutôt positif, hein, qui montre le bonheur du voyage, hein, la route, le nomadisme, d'accord, toutes ces choses-là. Et là vous avez exactement l'inverse, en gros, c'est plutôt extrêmement négatif avec tous les problèmes que le tourisme. Voilà, enfin, pour aller vite. Hein.
Donc il vaut mieux prendre les deux.
Non, c'est parce que c'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose, surtout ça.
Bon, ben merci Franck.
Merci à vous.
On va te redonner encore un cadeau, et puis on redonnera un autre cadeau.
Oh là là, je suis gâté, là.
Et tu vas t'en souvenir de la Nièvre et du tourisme, tourisme dans la Nièvre.
Merci.
Voyage dans la Nièvre. Merci. En fait, ouais, on n'est pas comme ça. Hein. C'est vrai qu'ici, dans la Nièvre, on n'est pas comme ça. On n'est pas si sympa que ça, quoi. Mais quand on fait... Non, mais attendez. Mais on fait un effort monstrueux pour essayer de bien recevoir, parce que ça se dépeuple, la Nièvre. Alors, on fait un effort monstrueux pour laisser un bon souvenir aux gens qui passent, de manière à ce qu'ils aient envie de revenir, quoi.
Très bien. Non, mais super. Merci, hein.